Bonsoir et bienvenue. Merci d'être venus très nombreux nous rejoindre dans cette grande salle qui est à la mesure de la notoriété et du succès de notre invitée de ce soir, Amélie Nothomb, que la Bibliothèque publique d'information se réjouit d'accueillir au Centre Pompidou. On ne présente plus Amélie Nothomb. Je rappelle seulement qu'elle se définit elle-même comme un écrivain, graphomane, malade de l'écriture. Je vais donc, sans plus tarder, laisser Josiane Savigno la soumettre au feu de ses questions pour tenter d'établir l'étiologie et le diagnostic de cette maladie remarquable. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Bonsoir. Je ne sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas, c'est une maladie enchantée. Donc, on ne va sûrement pas pouvoir parler de tous vos livres, mais on va essayer de faire une petite promenade dans tout ce que vous avez écrit. Alors, d'abord, je ne sais pas si vous savez que quand on a demandé un jour à Samuel Beckett pourquoi il écrivait, il a répondu « bon qu'à ça ». Et vous répondez quoi ?
Je ne voudrais pas le plagier, mais j'ai bien peur qu'il faille dire la même chose. J'ai même essayé de faire autre chose. Je l'ai prouvé dans un de mes livres qui s'appelle « Stupeur et tremblement ». J'ai essayé d'être une employée de bureau japonaise modèle. Ça a été un véritable désastre. Et il a bien fallu que je me reconvertisse. Et je ne sais pas si je suis bonne dans l'écriture. J'ai vraiment une certitude, c'est qu'en dehors de l'écriture, je ne sais strictement rien faire.
Et en fait, vous écrivez tous les matins. Et dans Biographie de la faim, dont on parlera tout à l'heure, vous dites que quand vous êtes arrivée en Belgique à 17 ans, c'est le pays que vous avez le moins compris. Et que c'est ça qui vous a motivée pour écrire.
Beaucoup de choses m'ont motivée à écrire, mais c'est vrai que d'arriver dans un pays qui était censé être le mien, dans lequel je n'avais jamais mis les pieds, et qui était censé contenir mon identité, et découvrir que ce pays contenait encore moins mon identité que les autres, en quoi je me trompais ? J'ai fini par comprendre que j'y avais une identité. Mais découvrir ce mystère absolu, vous savez, quand on ne comprend rien, on écrit. On écrit pour faire une espèce de diagnostic de la situation. Bon, ce qui est peut-être plus mystérieux, c'est que le premier roman, c'est celui que j'ai écrit à l'époque en débarquant en Belgique, racontait l'histoire d'une omelette spatiale. Je ne sais pas si c'était un diagnostic sur la situation belge ou sur la situation mondiale, je ne sais pas. Je ne sais pas si la crise belge que nous traversons s'explique par ce roman, peut-être futuriste. Finalement, vous savez que deux étages plus haut, il y a une exposition sur le futurisme. Je crois qu'il y a un lien.
Il n'a pas été publié, ce roman. Alors justement, en fait, vous n'avez commencé à publier qu'à 25 ans, et depuis chaque année, mais vous avez écrit avant, et vous écrivez plus d'un livre par an.
Oui, mais vous savez, heureusement, Josiane, imaginez un petit peu. Déjà, j'ai publié, si mes calculs sont exacts, j'ai publié 17 livres, ce qui est beaucoup. Or, je suis en train d'écrire mon 65e livre. Donc imaginez l'obscénité, imaginez qu'à mon âge, 41 ans, je n'ai pas publié 17 livres, mais 65, ce serait monstrueux. Donc heureusement, je n'ai pas commis cette erreur, je n'ai d'ailleurs jamais souhaité la commettre. Je ne fais pas partie des écrivains qui se croient obligés de publier tout ce qu'ils écrivent, je dirais même que chez moi, le désir de publication est plutôt un accident de parcours par rapport à l'acte d'écriture. J'ajouterais que j'ai l'intime conviction que le patrimoine mondial de la littérature se passe fort bien de 47, j'ai jamais pu calculer, manquant.
Mais ils vont venir.
Non, j'ai déjà pris des mesures testamentaires pour que ceux qui ne sont pas publiés à ce jour ne le soient pas, même en cas de décès. Je n'ai pas le désir de les publier. Je pense qu'ils n'ont pas le désir d'être publiés non plus. D'autre part, je me fie beaucoup aux cambrioleurs. J'ai été cambriolée deux fois à Bruxelles et mes manuscrits non publiés traînent par terre dans des caisses en carton. Et les cambrioleurs n'ont pas pris les manuscrits, donc je me dis que je dois y voir.
En général, ils ne sont pas forcément des grands lecteurs, c'est pour ça.
Je ne sais pas qui sont mes cambrioleurs. Apparemment, ce sont des gens intéressants, puisque à tous les coups, ce qui les intéresse le plus, c'est mon maquillage. Ils prennent tout le maquillage et ils laissent le reste.
Mais est-ce que comme Lacan, vous diriez poubellication plutôt que publication ?
J'ai appris ce mot fascinant de poubellication.
Oh,
c'est extraordinaire, parce qu'il y a un psychanalyste lacanien qui a en effet écrit toute une analyse lacanienne de mon œuvre. Et j'adore cette idée de poubellication, parce que les poubelles, on le sait, sont un petit peu notre archéologie. Donc,
Mais vous avez poubelliqué vos manuscrits.
Voilà. Et j'en poubelle écrire beaucoup encore, oui.
Mais Hygiène de l'assassin, qui était donc votre premier livre publié, sinon le premier, a été un succès immédiat. Est-ce que ça vous a étonné, ce succès immédiat ?
Mais complètement ! Déjà que je trouve un éditeur, et somme toute aussi facilement, ça n'allait pas de soi. Et en plus que ce livre connaisse d'emblée le succès qu'il a eu et qu'il continue d'avoir, je vous assure que j'imaginais que ce livre était extrêmement élitiste. En quoi je me trompais complètement. Il s'est avéré qu'il ne l'était pas. Et j'ai été la première à être heureuse de voir que, somme toute, j'étais un écrivain grand public.
Mais justement, ensuite, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de savoir que vous écriviez toujours pour un public très large ?
Non, parce qu'au moment où j'écris, je ne le sais pas. Au moment où j'écris, je ne sais jamais si ce que j'écris sera destiné à la publication ou sera destiné aux caisses en carton de l'appartement de Bruxelles.
Et comment ça se fait, le choix ?
Ça se fait vers ci-ci, c'est-à-dire généralement au mois de janvier, février. Je relis tout ce que j'ai écrit dans l'année et c'est à ce moment-là que je me pose la question de savoir si j'ai envie de publier quelque chose parmi les 3-4 manuscrits que j'aurai écrit dans l'année.
Mais dès Hygiène de l'assassin, on peut dire que vous aviez réglé cette question du succès, puisqu'il y a un vieil écrivain qu'on vient interviewer, et en fait, on lui demande comment il explique son succès, et il répond « Je ne l'explique pas ». Et il dit aussi « Les usines d'armement vendent chaque jour des milliers de missiles à travers le monde, et ça ne les fait pas réfléchir non plus ». C'est votre réponse ?
Oui, c'est une réponse très mégalomane, bien sûr, d'imaginer qu'il y aurait dans mes livres un pouvoir de nuisance égal à ceux des usines d'armement. Bon, depuis, j'ai appris que ce n'était pas si grave, ce que je faisais. Mais c'est vrai que Hygiène de l'assassin est un livre que j'ai entièrement écrit à partir du postulat que les gens ne lisaient pas. Et depuis que ce livre est paru, j'ai tous les jours la preuve que mon postulat était faux. Mais encore heureux que j'ai écrit un livre à partir de ce postulat faux, parce que ça m'a permis de savoir que mon postulat était faux.
Et tout à l'heure, vous avez parlé de votre premier manuscrit,
l'omelette spatiale, oui.
C'est ça, donc c'était déjà un peu de science-fiction. Vous y êtes revenu un peu avec Péplum. Ça vous intéresse, la science-fiction ?
Ah, c'est formidable, la science-fiction. La science-fiction, c'est le contraire de tout le reste de la littérature, c'est-à-dire que ce sont des aventures extraordinaires qui arrivent à des gens ordinaires.
Vous allez en écrire d'autres ?
Je suis incapable de savoir ce dont je vais être enceinte les années à venir, mais c'est extrêmement possible.
Mais est-ce qu'il y en a dans la poubelle des livres de science-fiction,
dans les caisses en carton,
à part les omelettes,
oui,
à part les omelettes.
Oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, absolument. Il n'y a pas que l'omelette spatiale.
Bon, moi, je sens qu'on va mandater des cambrioleurs intelligents pour récupérer ces fameuses caisses. Mais là, je n'y pourrais rien.
Rappelez-leur de prendre quand même aussi le maquillage, parce que sinon, je serai intriguée.
Bon, on leur dira tout prendre, la télé, l'ordinateur, le maquillage.
L'ordinateur, déjà, il n'y en a pas. Donc,
Oui, à propos, alors vous écrivez à la main ?
Oui, j'écris à la main, je ne possède pas d'ordinateur. Et maintenant que j'ai de bonnes relations avec mon éditeur, c'est-à-dire que mon éditeur n'est pas en état de me refuser quelque chose, j'apporte le manuscrit à l'état de manuscrit chez l'éditeur. Et une dame bienveillante le dactylographie.
Mais moi je pense que vous avez tout à fait raison. Je le dis parce que justement quand on est journaliste, on est de l'autre côté et que l'ordinateur c'est déjà une écriture collective. C'est déjà être dans la position du récepteur. C'est pas un rapport physique à l'écrit comme celui que vous avez.
Je partage tout à fait ce que vous dites sur le rapport physique à l'écrit, mais votre réflexion elle va beaucoup plus loin que la mienne, parce que la vérité, c'est que vous me mettez face à un ordinateur, je suis même incapable de l'allumer.
Donc, oui, mais ça c'est enfantin, on peut vous apprendre en une journée.
Vous ne savez pas à qui vous avez affaire.
Si, on peut vous apprendre en une journée. Je vous jure, c'est très facile. Simplement, je pense que ce n'est pas bon pour...
Oui, je pense aussi.
On va peut-être parler de votre dernier livre, puisqu'il est tout récent, Le Fait du Prince. Alors, on peut dire que c'est une comédie, moi je trouve que c'est une comédie absolument délicieuse, sur l'usurpation d'identité. En fait, c'est un jeu sur l'absurde et les quiproquos. J'aime beaucoup la phrase que j'avais choisie pour la quatrième de couverture, je vais la lire. « Il y a un instant entre la 15e et la 16e gorgée de champagne où tout homme est un aristocrate. »
J'avais songé à boire exactement 15 gorgées de champagne avant de venir, mais... Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je sais très bien que je suis incapable de m'arrêter à 15 et donc que j'aurais bu toute la bouteille et que donc j'aurais dit raconter des choses absolument hallucinantes au cours de cet entretien.
Mais en principe, vous êtes une aristocrate même après la 16e gorgée.
Oh, vous savez, il faut faire très attention à ce terme. Je suis justement assez bien placée pour savoir l'espèce de néant qu'il désigne. Donc soyons sur nos gardes.
Et en fait, dans ce, j'ai lu cette phrase, mais dans ce livre, il y a beaucoup de variations sur le champagne, puisqu'il y a une femme qui est dans la nourriture principale et le champagne, les différentes marques de champagne, le Dom Pérignon. Elle penche que des champagnes très chics, hein, Dom Pérignon.
J'ai décidé d'être Roderer, un petit peu
millésimé.
Je pense que bon, le Fait du Prince, c'est beaucoup de choses à la fois, mais c'est aussi un petit peu ma version champagnisée de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, version champagne. On peut considérer que je suis un petit peu dans le bathyscaphe et que j'explore. Je suis le capitaine Nemo qui explore la piscine de champagne avec en effet beaucoup de science.
Mais vous avez réussi à créer un type qui est un imposteur, mais une sorte d'imposteur au carré, un imposteur exponentiel.
Complètement. Mais vous savez, je parle un petit peu de ma vie, là, parce que quand on écrit, je pense que tous les écrivains ont le sentiment d'être un imposteur, à plus forte raison quand ça marche. Quand ça marche, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? D'où une certaine mauvaise conscience. Et c'est ce qui fait aussi écrire ce genre de livre, qui en même temps n'a aucune importance, puisque tout ceci étant écrit et peut-être lu sous l'emprise de l'alcool, tout ceci passe très bien.
Mais justement, dans ce livre, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues loufoques. D'abord, vous aimez beaucoup les dialogues, d'une manière générale.
Oui. Je trouve assez fascinant d'explorer les personnages rien qu'à travers ce qu'ils ont à se dire. Pas forcément leur monologue intérieur, de placer deux personnages ensemble, de ne même pas les décrire physiquement et d'explorer ce qui se raconte. C'est généralement tellement, tellement étrange.
Cela en particulier, cela ça...
Oui, mais dans la vie réelle aussi, généralement ce que les gens ont à se dire est très curieux. J'ai souvent examiné ça.
Vous les écoutez parfois quand vous êtes...
Tout le temps, surtout dans le métro et tout. C'est d'autant plus curieux que je suis un peu dure d'oreille, donc j'écoute d'autant plus fort. Et les conversations des gens, c'est toujours très, vraiment incroyable.
Enfin, vous ne vous en servez pas directement, en général.
Non, mais ça verse de l'eau à mon moulin en ceci que je vois bien que ce que j'écris n'est pas beaucoup plus hallucinant que ce que les gens se racontent en vrai.
Mais c'est vrai que parfois des situations de réalité ont un côté...
Oui.
On se dit que si on mettait ça dans un roman, ça paraîtrait trop.
Oui, et que les gens diraient « Ah, Amélie Nothomb,
oui, elle exagère.
Elle a perdu tout souci du réalisme.
Oui. » Non, par moment, justement, dans certains de vos dialogues, je pense qu'il y a un effet de réel, mais de ce réel étrange dont vous parlez, et que probablement certaines personnes se disent « Mais où est-ce qu'elle est allée chercher tout ça ?» Alors que ça vient du réel.
Mais oui, absolument. J'ai la folle prétention de croire que mes livres parlent de la réalité.
Ben, il y a une phrase dans Le Fait du Prince que j'aime beaucoup aussi, c'est quand un des personnages dit « Il faut glisser des fictions dans la vie comme les enfants ». C'est ce que vous faites ?
Je fais ça tout le temps. Et les fictions peuvent être parfaitement anodines et ça peut donner lieu à des conséquences incroyables. Vous savez, moi je considère déjà comme une véritable fiction glissée dans la réalité le fait d'être interviewée par Josiane Savigno ce soir.
C'est assez réel, non ?
Et oui, c'est ça. C'est maintenant que je m'en rends compte. Moi, j'ai accepté ça dans un moment de fol enthousiasme. Et maintenant, je me rends compte, mais c'était donc ça, c'était réel. Ça se produit vraiment.
Et justement, il y a un motif dont je voudrais qu'on parle maintenant, qui est métaphysique des tubes. Parce qu'en fait, c'est une histoire très réaliste, en effet.
Complètement.
Où on voit que vous étiez Dieu et que vous n'avez accepté de rejoindre le commun des mortels qu'au bout d'un certain temps.
Oui. Bon, je pense que c'est quand même l'histoire commune. La seule différence entre moi et le reste des gens, c'est que je m'en souviens. J'ai le souvenir assez précis d'avoir été Dieu pendant les deux premières années et demie de ma vie et un moment d'avoir... C'est pas vraiment que j'ai renoncé, ça ne me ressemblerait pas tellement d'y renoncer, mais d'avoir compris que finalement ce n'était pas à cette sauce-là que j'allais être mangée. Mais je suis persuadée que nous sommes tous passés par là. Je suis persuadée que bébé, nous étions tous Dieu. Et qu'à un moment, pour des raisons qui paraissent toujours accidentelles, il a fallu renoncer, rentrer dans le rang.
Mais vous, est-ce que c'est ce fameux chocolat que vous a donné votre grand-mère qui vous a obligé à vous rallier à l'humanité ordinaire ?
Non, je pense que le chocolat est ce qui m'a permis de rallier cette humanité ordinaire avec le sourire. Parce que je pense que j'avais déjà compris avant que, somme toute, non, c'était peut-être pas moi finalement Dieu. Seulement cette idée m'était insupportable, d'où les hurlements que je poussais sans trêve dans mon berceau. Et que ce chocolat blanc belge, tout à coup m'a fait penser que oui, c'est vrai, je n'étais pas Dieu, mais ce n'était pas si grave puisqu'il existait le plaisir.
Oui, mais ce chocolat, il a été aussi un déclencheur de mémoire, puisque vous dites qu'à partir de ce moment-là, vous vous souvenez de tout ce qui vous est arrivé.
Mais oui, je pense que le plaisir est puissamment mnémotechnique. C'est aussi pour ça que pour entretenir ma mémoire, je m'octroie de grandes doses de plaisir quotidien. Mais uniquement dans un but mnémotechnique, bien sûr.
Et vous en avez parlé après à votre grand-mère de cette affaire du chocolat ?
J'ai pas eu le temps de lui en parler parce que malheureusement, elle est morte 3 mois plus tard. Donc, je parlais pas. J'ai failli dire que je ne parlais pas encore le belge. J'ai l'impression qu'elle a su quand même qu'elle était très importante dans ma vie.
Parce que ce chocolat, on le retrouve
oui.
dans Biographie de la faim.
Oui, il y a deux ingrédients, je crois, qu'on retrouve et qu'on retrouvera de plus en plus dans mes livres, c'est le chocolat et le champagne. C'est un petit peu normal, c'est la base de mon alimentation. Donc, c'est un petit peu comme dans les natures mortes ou les grottes de Lascaux, on dessine ce qu'on mange. Et le chocolat, en effet, joue un rôle capital dans ce que j'écris. C'est l'alimentation des dieux. Et je crois que c'est ce qui entretient chez moi la nostalgie divine.
Ben justement, je voudrais qu'on s'arrête sur Biographie de la faim, qui me paraît être un livre extrêmement, extrêmement important, pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est l'effroi que vous avez éprouvé à l'idée de sortir de l'enfance, et qu'on voit dans beaucoup de vos livres, et dans celui-ci particulièrement. Et puis alors, vous avez choisi de lire un passage, et je ne sais pas pourquoi j'avais choisi ce passage, donc je vais vous le faire lire, et puis comme ça...
Moi, je vous obéis, Josiane, vous savez, je ferai tout ce que vous voudrez.
C'est vous qui l'avez choisi, attendez, page 85-87.
Il fallait laisser croire aux gens que j'étais là en état de pure soumission.
Page 85-87. Non, c'est moi qui me soumets, après je vous dirai d'autres passages que j'avais choisis moi aussi. 85, voilà, je pense que ça commence, c'est au moment où vous avez un grand usage des dictionnaires et où vous découvrez le mot « jamais ».
Oui. Jamais était le pays que j'habitais. C'était un pays sans retour, je ne l'aimais pas. Le Japon était mon pays, celui que j'avais choisi, mais lui ne m'avait pas élu. Jamais m'avait désigné. J'étais ressortissante de l'état de jamais. Les habitants de jamais n'ont pas d'espoir. La langue qu'ils parlent est la nostalgie. Leur monnaie est le temps qui passe. Ils sont incapables d'en mettre de côté et leur vie se dilapide en direction d'un gouffre qui s'appelle la mort et qui est la capitale de leur pays. Les Jamaisiens sont de grands bâtisseurs d'amour, d'amitié, d'écriture et autres édifices déchirants qui contiennent déjà leurs ruines. Mais ils sont incapables de construire une maison, une demeure ou même quoi que ce soit qui ressemble à un logis stable et habitable. Rien pourtant ne leur paraît aussi digne de convoitise qu'un tas de pierres qui serait leur domicile. Une fatalité leur dérobe cette terre promise dès qu'ils croient en avoir la clé. Les Jamaisiens ne pensent pas que l'existence est une croissance, une accumulation de beauté, de sagesse, de richesse et d'expérience. Ils savent dès leur naissance que la vie est décroissance, déperdition, dépossession, démembrement. Un trône leur est donné dans le seul but qu'ils le perdent. Les Jamaisiens savent dès l'âge de 3 ans ce que les gens des autres pays savent à peine à 63 ans. Il ne faudrait pas en déduire que les habitants de Jamais sont tristes. C'est le contraire. Il n'y a pas de peuple plus joyeux. Les moindres miettes de grâce plongent les Jamaisiens dans l'ébriété. Leur propension à rire, à se réjouir, à jouir et à s'éblouir est sans exemple sur cette planète. La mort les hante si fort qu'ils ont de la vie un appétit délirant. Leur hymne national est une marche funèbre. Leur marche funèbre est un hymne à la joie. C'est une rhapsodie si frénétique que la simple lecture de la partition fait frémir. Et pourtant, les Jamaisiens en jouent toutes les notes. Le symbole qui fleurit leur blason est la jusquiam.
Alors, pourquoi vous avez choisi ce passage ? Comme ça. Vous avez ouvert le livre.
Voilà, c'est ça.
Mais alors, justement, dans Biographie de la faim, on retrouve le chocolat et Dieu, si j'ose dire. Ne suffit-il pas d'avoir en bouche du très bon chocolat, non seulement pour croire en Dieu, mais aussi pour se sentir en sa présence? Donc, je vous recommande. On n'a pas distribué de chocolat ici, mais c'est quand même dommage.
Côte d'Or, lait, grosse noisette.
Mais moi, je préfère le noir, 75%. Bon. Dieu, ce n'est pas le chocolat, c'est la rencontre entre le chocolat et un palais capable de l'apprécier. Ça devient déjà beaucoup plus complexe.
Oui, mais c'est de la métaphysique de haut niveau, vous savez, tout ça, mine de rien. Oui. Et alors, ce que vous savez pas, c'est que toutes ces phrases ont été reprises par des chocolatiers belges. Les chocolatiers belges me veulent tous comme emblème.
Oui.
Oui.
Et alors?
Moi, j'accepte parce que ça, je suis payée
en
chocolat.
Vous êtes payée en chocolat.
Je suis payée en chocolat.
Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans Biographie de la fin, c'est qu'il y a beaucoup de portraits de gens que vous avez aimés, en particulier votre sœur. Et puis il y a cette scène très drôle où donc votre frère est envoyé en Belgique tandis que vous les filles vous allez partir à New York, et alors votre sœur et vous le regardez monter dans la voiture avec vos parents qui l'emmènent à l'aéroport, et votre sœur dit: tu te rends compte, le pauvre, il va dans une prison belge alors que nous allons vivre à New York, il y a une justice, grinçais-je. Entre le frère et vous, c'était pas terrible. Juliette, 10 ans et demi, était mon rêve. Quand on lui demandait ce qu'elle voulait devenir à l'âge adulte, elle répondait fée. En vérité, elle en était une de toute éternité, comme le prouvait son joli visage, toujours dans la lune. Sa plus grande ambition était d'avoir un jour les cheveux les plus longs du monde. Comment ne pas aimer follement un être animé d'aussi nobles desseins ? Elle a eu les cheveux très longs ?
Elle a toujours des cheveux extrêmement
plus
longs
que vous ? Il y a une compétition ?
Oui, je pense qu'il y a une compétition, oui. Oui. Mais je ne sais pas qui la gagne.
Ça doit être vous, non ?
Bon, je vais lui poser la question demain avec un maître ruban.
Et alors justement, après ce passage-là, vous faites une description assez magnifique de New York comme une ville qui vous a exalté. Et c'est toujours une ville que vous aimez ? Vous aimez y retourner ?
Oh oui, c'est une ville dont je raffole. J'ai le bonheur immense d'y retourner pendant la première quinzaine de février, à l'occasion de l'apparition de Ni d'Ève ni d'Adam en américain, qui sort en américain sous le titre de « Tokyo Fiancé ». Donc, mais ça sera un plaisir pour moi d'aller défendre ce livre au titre incongru dans une ville aussi parfaitement géniale.
Et alors, c'est à New York que vous vous lancez dans une tentative de conquête de votre gouvernante, ou fille au père, moi je sais pas comment on peut l'appeler, Inge.
Inge, oui. Oui, j'avais donc mes parents.
Et vous aviez quel âge exactement ?
Je suis arrivée à New York, j'avais 8 ans.
Et déjà à 8 ans.
Oh, ben oui, mais bien avant. Mais
et la première, c'était où ? C'était au Japon ?
C'était en Chine.
En Chine ?
C'était la fameuse Elena qui allait dans la même école que moi. C'est ce que je raconte dans le sabotage amoureux.
Ah oui, mais c'était une petite.
Ah oui. Bon.
Et Inge, c'est votre première adulte, non ?
Oui, enfin, vous dites ça comme si... Vous savez, ça a été un échec complet. Hein,
je sais, mais on n'en est pas encore là. On en est pour le moment aux tentatives d'approche.
Oui. Oui, donc mes parents avaient pour habitude que ma sœur et moi ayons des gouvernantes, parce qu'ils sortaient beaucoup, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de nous. Et formidable, donc à New York, non seulement le frère n'est plus là puisqu'il est envoyé dans une prison belge, premier bonheur, mais en plus la gouvernante est divine, elle ressemble à Greta Garbo. Donc je me suis dit, bon, il y a des choses à faire dans cette ville.
Et alors ?
Mais ça n'a pas marché.
Et ça n'a même pas marché entre elle et son homme.
Non, vous voyez qu'elle a vraiment tout foiré.
Elle était très, très mauvaise, en fait.
Elle a tout foiré.
Vous lui avez jeté un sort ?
Oh non. Moi, je suis une personne très bienveillante. Mais au contraire, j'ai essayé que ça marche au moins avec cet homme. Mais ça n'a pas marché non plus. Mes conseils n'ont pas porté.
Mais dans Biographie de la fin, il y a beaucoup d'humour, comme toujours chez vous. Mais il y a quand même des choses assez tragiques. Quand même, par exemple, quand vous expliquez que... La mort contenue dans la vie, vous dites, la mort contenue dans la vie m'effraya. Ça a continué ?
Oui, mais on comprend vite ça quand on est petit, que la vie est pleine de morts. Et c'est effrayant. Bon, la lecture de Nietzsche aide à digérer cette grande découverte, mais même en acceptant la théorie de l'éternel retour, ça reste très dur, quoi, d'être conscient de ça tous les jours.
Et alors vous dites un petit peu plus loin, avant qu'il se passe une décision assez grave finalement pour vous, donc vous devez quitter New York, vous allez en Birmanie, et vous dites j'ai eu 13 ans en Birmanie, et ensuite vous décrivez quelque chose de terrible. Mon corps se déforma, je grandis de 12 cm en un an, il me vint des seins grotesques de petitesse, mais c'était déjà trop pour moi, j'essayais de les brûler avec un briquet comme les Amazones s'incendient un sein pour mieux tirer à l'arc. Je ne réussis qu'à me faire mal. Je remis ce problème à une date ultérieure, persuadée de trouver tôt ou tard une solution. Cette croissance éperdue me replongea dans l'état végétal de mes premières années. Je n'en pouvais plus de fatigue. Me traîner jusqu'au bar était un exploit. Seule la perspective du whisky m'en rendait capable. Je buvais pour oublier que j'avais 13 ans. Donc la puberté, ça a été quelque chose de terrible.
Oh oui, mais 13 ans, c'est abominable. Il y a 2-3 personnes dans la salle qui ont à peu près cet âge, et je suis sûre qu'ils peuvent en témoigner. 13 ans, c'est vraiment affreux.
Mais la puberté, enfin, ce que vous décrivez, cette transformation du corps, vous l'avez vécu comme un désastre?
Oh, mais exactement comme ça. Et c'est une expérience moins singulière qu'on le pense. Je pense que la littérature a beaucoup menti à ce sujet, particulièrement pour l'adolescence des filles, mais pas uniquement. C'est vrai que ce que je lisais à l'époque dans la littérature, c'était, on voyait des petites filles qui étaient folles de joie de devenir des jeunes filles. Je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Et maintenant que je suis adulte et que j'en parle beaucoup avec des adultes, eux me disent la même chose, mais ils ont vécu ça de façon complètement traumatisante et en ne se réjouissant pas du tout. Je pense que c'est peut-être l'un des ingrédients pour lesquels j'ai pas mal de lecteurs, c'est que beaucoup de lecteurs se sont reconnus dans cette vision apocalyptique du passage à l'âge adulte.
Et vous pensez que c'est cette sensation de désastre qui a motivé cette décision que vous avez prise le 5 janvier 1981, jour de la Sainte Amélie, de ne plus manger ?
C'était certainement l'un des éléments importants de cette décision. Mais c'était renforcé par le fait que cette expérience était vécue avec ma sœur. Donc il y avait aussi une valeur d'acte amoureux, puisque c'était un acte que nous commettions ensemble.
Et il y avait aussi une volonté de rassemblement et de totalisation, puisque vous dites que cette déperdition de soi s'accompagnerait d'une rétention. La loi, avec une majuscule, stipulait aussi qu'à dater de ce jour, je n'oublierai plus aucune émotion de ma vie.
Oui, ça c'était le pari absolument insensé. Bon, je rappelle que j'avais 13 ans, et qu'à 13 ans, on prend des résolutions titanesques. Et c'est quand même pas loin d'avoir marché. Parce que c'est vrai que les émotions de ma vie, j'ai vraiment tendance à les garder de façon très forte.
Mais chez vous, c'était plutôt un refus de sortir de l'enfance, comme vous le disiez, de la femme que vous étiez en train de devenir, plutôt que, comme chez certaines jeunes filles, l'idée d'une femme parfaite qui serait dans la
maigreur. Oh non, alors là, vraiment pas du tout l'idée d'une femme parfaite, certainement pas.
Vous n'étiez pas du tout gagnée par ces modèles, cette modélisation de la belle fille
non,
très maigre.
Je n'ai jamais eu beaucoup d'ambition dans ce domaine.
Et alors du coup, vous avez décidé de manger les mots.
Oui, et ça a complètement marché, puisque j'ai entièrement lu le dictionnaire à cet âge-là. Et c'est vrai que c'est une nourriture, il y a des mots qui nourrissent.
Et alors, j'aime bien ce que vous dites justement sur cette idée de la rétention, du renoncement. Vous dites, la cèse n'enrichit pas l'esprit. Il n'y a pas de vertu aux privations, ce qui est tout à fait contraire à ce qu'on entend très très souvent, et notamment à ce qu'on dit à un certain nombre de grands mystiques.
Absolument. C'est au moins une chose que j'ai découverte, parce que je suis allée très loin dans cette expérience, puisque de 13 à 15 ans, je n'ai pas mangé. Et depuis, je suis très irritée quand j'entends des éloges de la cèse, voire des éloges de l'anorexie, parce qu'on en entend de plus en plus. Non, franchement, la seule chose intéressante que j'ai découverte au cours de l'anorexie, c'est qu'il n'y avait aucune vertu à l'anorexie. Alors ça, je le dirai à qui veut l'entendre.
Mais est-ce que vous avez jugé de cela a posteriori, ou est-ce qu'au moment où vous le viviez, il n'y avait pas de... Vous faisiez vous donniez aucune vertu à cette ascèse ou à cette privation, ou est-ce qu'au moment où vous le viviez, vous aviez l'impression que c'était quand même quelque chose de magnifique?
Non, je m'en suis rendu compte tout de suite. Il n'y avait aucun moyen d'être berné, parce que même s'il y a des moments d'exaltation dans l'anorexie, ces moments ne peuvent pas voiler combien on est diminué, combien l'esprit même est diminué. On s'imagine qu'on va trouver des trésors d'esprit dans la 16, et puis c'est exactement le contraire. On se trouve réduit à sa plus simple expression. Ce dont on avait l'impression que c'était une âme se trouve réduit à sa portion congrue. Alors peut-être qu'il existe de très grands mystiques pour lesquels ça ne s'est pas passé comme ça, mais peut-être aussi que tout le monde n'est pas fait pour devenir de très grands mystiques.
Et vous décrivez combien c'était difficile de recommencer à manger physiquement. Mais vous vous souvenez du moment où vous avez décidé de recommencer à manger?
Je m'en souviens parfaitement, mais je sais parfaitement aussi que je ne l'ai pas décidé. Je sais que je l'ai vécu de façon tout à fait schizophrénique, puisqu'à ce moment-là, vraiment, mon corps et mon âme se sont séparés, et que c'est mon corps qui est allé manger. Et je ne souhaite à personne une telle expérience.
Parce que tout d'un coup, dans le livre, c'est ça, vous allez manger.
C'est le corps qui y va.
C'est très difficile, mais on ne sait pas ce qui l'a motivé.
Je pense que ce qui a motivé mon corps, c'est tout simplement l'instinct de survie, et que si à ce moment-là, mon corps et mon âme se sont séparés, c'est parce que c'est tout ce que mon corps a trouvé pour ne pas mourir. Mais la lente reconquête du corps et de la nourriture et d'un semblant de rapport entre le corps et l'âme, je vous assure, c'est très difficile.
Mais vous vous souvenez, quand vous racontez ce moment où vous lisez la Chartreuse de Parme, et vous dites, par ailleurs, il n'y avait pas plus civilisé que ce livre. L'anorexie me tenait à l'écart de la civilisation et j'en souffrais.
Oui, parce qu'il y a aussi toute cette dimension antisociale de l'anorexie. Les gens, dès l'instant où vous cessez de manger, les gens ne veulent plus vous parler. Vous ne faites plus partie de leur groupe. Et je n'ai jamais été le genre de personne qui ne veut pas faire partie du groupe. Donc c'est une souffrance supplémentaire, c'est qu'on est complètement mis à l'écart.
Vous avez senti cette exclusion, mais pas de la part de vos parents qui essayaient de faire quelque chose, non ?
Mais mes parents, vous savez, ils se rendaient plus ou moins compte. Heureusement d'ailleurs, je crois que j'ai été paradoxalement sauvée par le fait qu'ils ne se rendaient pas trop compte de ce qui se passait, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils m'auraient mise dans une clinique, grâce à quoi je n'ai pas été mise dans une clinique.
Mais votre sœur a fait la même chose que vous aussi longtemps ?
Ma sœur, c'est différent, parce que comme elle n'a jamais fait ça de façon aussi jusqu'au boutiste que moi, elle n'en est jamais vraiment sortie non plus.
Elle n'est pas vraiment anorexique, mais...
Voilà.
Et le champagne, non ?
Ah, ça, le champagne, ça, c'est moi. Hein, c'est,
Et quand vous étiez anorexique, vous ne buviez pas de champagne ? Que de l'eau ?
Bien sûr.
Si ?
Il n'y avait rien du tout.
Que
y
de
avait,
l'eau
et même l'eau, j'en avalais à peine. Vous n'avez pas idée de jusqu'où allaient se loger les privations. Même l'eau était rationnée.
Vous imposiez un rationnement ?
Oui, absolument. C'était vraiment des mortifications, et des mortifications qui ont duré très longtemps.
Mais en fait, ça mobilise beaucoup, quand même.
Oui,
On est un peu obsédé par...
Complètement. Franchement, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est ne devenez pas anorexique. Franchement, il n'y a rien à trouver là-dedans.
Et alors, vous racontez aussi, vous parlez beaucoup d'une lecture que j'ai faite moi aussi quand j'étais adolescente et qui m'a assez troublée, qui est la lecture des Jeunes filles de Montaigne, qui est un livre assez terrible pour les femmes.
Oui. Et que j'ai lu plus de 100 fois, et que je continue à relire très régulièrement. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais lu autant et aussi obsessionnellement que pendant mon adolescence, et je pense que ça explique beaucoup de choses. Mais en même temps, je trouve normal, surtout à cet âge-là, d'être obsédée par ce livre, parce que c'est un livre qui fait un diagnostic épouvantable de la condition féminine. Alors on peut régler ça en disant que c'est la condition féminine de cette époque. Est-ce qu'on en est vraiment totalement sorti ? Je n'en suis pas sûre.
En plus, je trouve que c'est plus qu'un diagnostic de la condition féminine, c'est un diagnostic de la psychologie féminine,
oui.
Et de quelque chose qui selon, pour Montherlant, pouvait traverser les siècles, qui est quand même une détestation qu'il avait de la psychologie féminine, qu'on peut tout à fait ne pas partager. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, c'est assez séduisant.
C'est très séduisant. D'autant plus, depuis lors, je ne vais pas un instant me comparer au personnage de ce livre, je ne lui ressemble pas. Mais j'ai pu découvrir que les types féminins qu'il décrit dans ce livre existent. Je les ai rencontrés à beaucoup d'exemplaires.
Mais ça, c'est quelque chose de terrible. C'est que très souvent, en effet, quand on lit des romans à charge contre les femmes, on les juge outrageusement misogynes, ce qui a été mon cas pendant très longtemps. Et ensuite, on voit des stéréotypes de femmes comme ça se promener.
C'est le nom d'un chien, mais c'est vrai, elle existait vraiment, cette femme.
Je crois que la détestation que provoque Simone de Beauvoir chez un certain nombre de supposées féministes aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas dit dans le deuxième sexe « Femme, la vérité sort de ta bouche ». Elle a dit « Femme, vous êtes aliénée, il faudrait en sortir ».
Oui, exactement.
Et on n'en est pas forcément toujours sorti. Alors, est-ce que c'est des lectures comme celle de Montherlant qui ont suscité des personnages comme le personnage de Ante Krista ?
Oh non, le personnage d'Ante Krista, je l'ai connu. J'ai vécu l'histoire de Blanche. J'ai été Blanche pendant plus longtemps qu'elle. Et je dirais même que c'est une histoire que j'ai vécue surtout une fois, mais que, à ma manière, j'ai vécu un grand nombre de fois. Donc, à force de voir des schémas se répéter, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi
ça arrive ? C'est l'emblème, Antéchrista, c'est l'emblème de plusieurs personnages réunis.
Voilà, de ce genre de fille qui arrive. Et,
parce que c'est vraiment ce qu'on peut détester chez une femme.
Oui, encore qu'elle ne soit pas totalement détestable, par certains aspects, elle est même très séduisante, mais elle arrive, elle prend le pouvoir et elle vous met dehors. Ça, je connais, oui.
Et elle a aussi une idée extrêmement, flatteuse ou vaniteuse de sa propre représentation, de sa propre image.
Oui, c'est vrai.
C'est ça qui est assez odieux.
Oui, plus que... en plus, oui. C'est-à-dire qu'en soi, ça pourrait être vu comme mignon, d'autant plus que l'héroïne est une adolescente. Si ça ne s'exerçait de façon tellement méprisante envers l'autre, c'est pas seulement « je suis sublime », c'est « je suis sublime parce que tu es nul ». Donc c'est très difficile à vivre comme situation.
Il y a un autre livre que je trouve terrible et que j'aime bien, mais que je trouve terrible sur le corps, c'est Robert des noms propres.
Oui.
Vous voulez en parler un peu? Ce
livre raconte l'histoire d'une grande amie qui est la chanteuse Robert, qui avant de devenir cette chanteuse était petit rat de l'opéra. Donc elle m'a raconté son histoire qui, je ne sais pas si tout ceci serait encore d'actualité, mais ce qui se passait du moins dans les années 70 à l'école des rats, c'était vraiment une haine du corps, mais je crois que c'était carrément contraire aux droits de l'homme. Et je raconte ça dans ce livre. Et en effet, c'est d'autant plus effrayant que dans son cas, la propre mère,
c'est ce que je veux dire, c'est le personnage de la mère
qui approuve les sévices faits à sa fille.
Et qui la déteste si elle veut s'en détacher.
C'est ça, qui la déteste si elle veut retrouver un corps normal.
Et ce qui vous a intéressé dans ce livre, c'était le travail sur le corps, mais aussi les rapports terribles que peuvent entretenir des mères et des filles?
C'est bien sûr l'un des thèmes. L'amour qui peut exister entre une mère et sa fille est l'une des formes les plus paroxystiques de l'amour, mais c'est rarement simple. Il s'y glisse des choses qui généralement sont passées sous silence. Mais j'ai essayé d'en parler là quand même.
Mais là, chez cette mère, il y a une volonté en fait que sa fille fasse ce qu'elle aurait...
Oui.
Voulu faire et qu'elle n'a pas fait,
oui.
Et au prix de tout.
Oui, donc c'est magnifique de rêver d'avoir un enfant, mais c'est très dangereux de rêver un enfant, surtout quand on rêve l'enfant à sa propre place. C'est très dangereux.
Mais est-ce que c'est pas très commun dans la maternité?
Personnellement, je n'ai pas d'enfant et je n'en aurai pas, mais je pense que c'est une chose qui arrive souvent.
Parce qu'avoir des enfants, c'est plutôt agréable, mais devenir mère, c'est peut-être plus compliqué, comme vous disiez.
C'est certainement très, très difficile.
Alors, ce qui est très courant aussi chez vous, c'est cette manière d'allier la laideur ou la beauté, ou de voir la laideur dans la beauté, ou de chercher la beauté dans la laideur. Et donc, il y a deux livres dont j'aimerais bien que vous parliez, c'est Mercure et Attentat.
Oui, donc vous avez raison de les mettre en couple parce que c'est deux livres qui vraiment explorent la question de la beauté et de la laideur. Le premier des deux, c'est Attentat. C'est tout simplement l'homme le plus laid du monde qui tombe amoureux de la femme la plus belle du monde. Et dans le livre suivant, qui est Mercure, c'est encore plus poussé à l'extrême puisque carrément, on obtient une synonymie entre le comble de la laideur et le comble de la beauté. Puisque suite à des espèces de manipulations narratives, on se rend compte peu à peu que la femme du livre, qui est censée être d'une laideur sans nom, est en fait la plus belle femme du monde.
Et c'est dans Mercure que vous parlez de la beauté au cœur de l'immonde?
Oui. Il y a beaucoup de façons d'explorer ça dans ma vie. Il y a le Japon, il y a la Belgique. Le Japon est un pays qui, plus qu'aucun autre, a élevé un piédestal à la beauté. D'autre part, la laideur y est présente. Donc c'est très singulier de se promener dans ce pays magnifique et d'y voir la laideur. La Belgique, c'est presque le contraire. C'est un pays où la laideur circule, mais où tout à coup on voit la beauté. On est stupéfait. Tiens, il y a de la... Je suis désolée pour les Belges qu'il y a dans la salle. Je sais qu'il y en a, mais je suis belge moi-même, donc il y a des droits que je me donne. Donc je pense que le contraste des deux...
Dans quel livre, j'ai oublié, vous allez me le dire, dans quel livre vous dites à quelqu'un je suis belge et quelqu'un vous répond mais je ne le dirai à personne?
C'est en Biographie de la fin, mais ça m'a vraiment été dit au lycée, je cachais...
Ah oui, c'était au lycée de New York, c'est ça, c'est au lycée de New York, donc, où vous cachiez votre belgitude.
C'est ça, et puis finalement il y a une petite fille qui m'aime beaucoup, c'est ma meilleure amie, et puis un jour je suis tellement en confiance que je lui dis, tu sais, je suis belge, et elle me dit... Je ne le dirai à personne.
Mais parce que vous avez vécu dans beaucoup de pays, et pourtant le Japon et la Belgique, c'est les deux pôles toujours quand vous en parlez.
Oui, forcément, puisque mon père était ambassadeur de Belgique, il représentait ce pays, il en parlait beaucoup. Je savais que je venais de ce pays, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je savais que je venais de ce pays. Maintenant, je suis convaincue que je viens de ce pays. Je ne comprends toujours pas très bien ce que ça veut dire que d'être belge, mais je suis convaincue que cette identité me va très bien. D'autre part, je pense que ça me résume très bien cette bipolarité complètement absurde, parce que vous chercheriez un lien philosophique, historique, esthétique entre le Japon et la Belgique, il n'y en a pas. C'est absurde d'être à la fois belge et japonaise. Ce sont des pays qui n'ont pas de rapport. Donc ça donne lieu à moi, voilà.
Mais le Japon, c'est parce que c'est vraiment le lieu de l'enfance, parce qu'ensuite, oui, il y a eu tous ces pays. Enfin, tout à l'heure, vous parliez de New York, vous avez, oui, aimé vivre à New York.
Il y a énormément de pays que j'ai aimé par la suite, mais il n'y a aucun pays dans lequel l'identification a été faite comme au Japon. J'imagine que c'est parce que c'est dû, entre autres, au fait que je fais partie de ces espèces fossiles qui sont surtout attachées à leur toute petite enfance. Mais c'est aussi dû au fait que ce pays est le Japon et qu'il n'y a rien à faire. C'est un pays qui est capable d'exercer un pouvoir de fascination à nul autre pareil, et il en existe beaucoup d'exemples.
C'est-à-dire que dans les autres pays, vous n'avez pas eu de sentiment d'appartenance.
C'est ça. Tandis qu'au Japon, d'abord j'étais née là. En plus, mes parents m'avaient mise à l'école japonaise alors qu'ils avaient mis mon frère et ma sœur à l'école américaine. Donc j'avais vraiment le sentiment d'une élection. Il y a un rapport profond entre ce pays et moi. C'est ce que je pensais à l'époque. En plus, ma gouvernante était japonaise et elle m'aimait comme si j'étais sa fille, et je l'aimais comme si elle était ma mère.
Et vous savez pourquoi vos parents vous avaient mis à l'école japonaise plutôt que...
Oh, simplement parce que c'était possible. Je veux dire, j'étais en âge d'aller en maternelle. Les maternelles étaient au bout de la rue, donc ils se sont dit que c'était un signe du destin. Et en plus, c'est vrai qu'ils voyaient en moi une vocation japonaise du fait que j'étais née au Japon.
Mais avant de découvrir ce sentiment de belgitude que vous avez aussi, vous vous êtes vécue comme japonaise.
Oui, avec beaucoup d'obstination, mais plus longtemps qu'on ne l'a cru, puisque jusqu'à mon retour au Japon à l'âge de 21 ans, j'ai entretenu très intimement cette mythologie d'être japonaise. Bon, je ne le disais pas trop parce qu'au fil des années, je voyais que quand je disais que j'étais japonaise, je lisais une certaine perplexité dans le regard des gens. Mais au fond de moi, je le pensais d'autant plus. Ils sauront un jour que je suis japonaise. Et puis, je suis retournée au Japon et on a vu avec quel résultat.
Un beau résultat quand même, ça on va en parler, parce qu'il y a deux versants de cette histoire.
Oui, bien sûr, je ne dis pas que cette histoire était totalement dénuée de bonheur et d'émerveillement, ça a été des années extraordinaires. Mais enfin, disons que de la part de quelqu'un qui avait l'ambition de devenir japonaise, c'était quand même un échec.
Malgré tout, vous vous sentez toujours partiellement japonaise, on pourrait dire ça comme ça?
Oui, il y a beaucoup de Japon en moi, et c'est certainement le pays que j'aime le plus au monde, mais j'ai appris à vivre cet amour de loin.
Et la Belgique, alors?
J'ai fini par comprendre, ne serait-ce que par élimination, que c'était mon pays. Et maintenant, je le crois plus profondément encore. Je le crois d'autant plus depuis que ce pays est en crise. Le fait que cette identité soit belge, soit si problématique. Et pour moi, justement, ça me permet de mieux m'identifier à ce pays.
Et par exemple, vous parlez les deux langues de la Belgique?
Malheureusement, non. Je suis arrivée trop tard en Belgique pour apprendre le néerlandais. Je le regrette beaucoup. D'autant plus que ma famille maternelle est flamande. Donc franchement, c'est dommage que je ne parle pas cette langue. Je la comprends un petit peu.
Mais vous avez ce sentiment d'appartenance aussi physique à ce pays, à la Flandre, au paysage
Oui, quand même, c'est pas très profond, mais je constate une chose, c'est qu'aucune peinture au monde ne provoque en moi une réaction aussi forte que la peinture flamande. Donc ne serait-ce que par ça, et c'est quand même quelque chose.
Parce que je me dis toujours quelque chose de mystérieux là-dedans, puisque par exemple Marguerite Yourcenar, sur laquelle j'ai un peu travaillé, et donc réfléchi, avait très très peu vécu en Belgique, n'était pas belge de nationalité puisque son père était français, et malgré tout chaque fois qu'elle revenait en Belgique, elle avait ce sentiment étrange, et elle aussi avait cet attachement à la peinture flamande que,
oui,
vous avez.
Oui.
Comme s'il y avait un esprit quand même qui...
Il doit y avoir quelque chose.
Que vous retrouviez.
Il doit y avoir quelque chose, parce que c'est pas normal que, n'ayant absolument pas été formée à cette peinture, quand je vois cette peinture, moi qui ne suis pas terriblement sensible aux arts plastiques, cette peinture me fait tellement d'effet.
Je veux dire, Bruegel, Memling, tout ça,
oui,
tout
absolument. Van Eyck, mon fameux chapeau est un chapeau que j'ai vu dans un tableau de Van Eyck. J'ai voulu le porter parce que je l'avais vu dans un tableau de Van Eyck.
Alors, il y a un livre de vous qui est très énigmatique pour moi, c'est Cosmétique de l'ennemi.
Oui, c'est un livre... qui est venu d'une grande colère. Je parle toujours du moment où je tombe enceinte de mes livres, je compare chacun de mes livres à des grossesses. Et ce qui m'a mise en scène de ce livre, c'était une colère très, très, très violente qui a fait que je me suis retrouvée à 1h du matin marchant dans la rue très vite, dans un état de haine implacable. Et tout à coup, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de ce livre. Je ne sais pas si ceci explique beaucoup de choses.
Mais dites un peu ce qu'il y a dans ce livre, qui est assez énigmatique.
C'est un livre
jusqu'au bout, on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit.
C'est un livre qui commence d'une façon qui est très typique de moi, avec le thème de l'intrus, le thème de l'importun. Un type attend son avion à l'aéroport. L'avion est annoncé en retard. Bon, il prend son mal en patience. Un autre bonhomme arrive et commence à lui faire la conversation contre son gré. Situation que j'ai vécue d'ailleurs un très grand nombre de fois dans ma propre vie. Je ne dis pas ça pour vous, bien sûr. Là, j'étais tout à fait consentante.
Et... Surtout quand on sait comment ça se termine.
Oui, mon Dieu. Et bon, au début, le type qui attend son avion, essaie d'abord de se débarrasser de l'autre, puis il comprend qu'il n'y parviendra pas, que l'autre a décidé de lui parler, de lui pourrir son attente. Bon, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, il subira l'intrus comme il le pourra, jusqu'au moment où l'intrus se met à dire des choses qui ne sont vraiment pas normales, qui tendraient à prouver qu'il a une connaissance intime de sa vie à lui. Et là, ça dégénère complètement, évidemment.
Mais en fait, il est lui.
Et oui, en fait, oui.
Donc, il doit mourir.
Et oui. Ça ne vous arrivera pas, Josiane.
Enfin, pas ce soir, mais ça m'arrivera comme tout le monde. Enfin, j'espère pas ce soir.
Pas demain matin, en tout cas. Ou alors, ce serait vraiment le scoop. Bon.
Mais je me méfie maintenant, après l'histoire de votre grand-mère qui est morte 3 mois après le morceau de chocolat. Oh. Ça m'inquiète un peu.
Non, là, franchement, je pense que je suis pour rien. Dans d'autres, il y a des cas plus ambigus, mais là...
Vous voyez. Et Inge, vous avez de ses nouvelles?
Oui, mais elle n'est pas très heureuse.
Enfin, elle n'est pas morte.
Non, vous voyez. On peut aussi survivre à ce genre d'histoire.
Je crois que je vais écrire un petit livre, survivre à Amélie Nothomb.
Oui, oui.
Bon, alors, les stupeurs et tremblements et Nid d'Avenue d'Adam, je trouve qu'il faut, en parler un peu... séparément, mais ensemble aussi. Donc, je vais lire ce que vous avez écrit derrière Ni d'Ève ni d'Adam, qui est donc votre avant-dernier livre, si je ne me trompe. Stupeur et tremblement pourraient donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse des employés. Ni d'Ève ni d'Adam révélera qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai été aussi la fiancée d'un tokyoïte très singulier. Donc, ces livres fonctionnent comme une sorte de diptyque.
Oui.
Et c'est d'abord Stupeur et tremblement qui est un livre... tragicomique, j'allais dire, parce que c'est quand même désopilant, on se marre tout le temps.
Mais bien sûr, c'est la meilleure façon de rire. C'est un petit peu Gaston Lagaffe au Japon, et c'est une histoire vraie, donc c'est encore plus drôle de m'imaginer dans toutes les postures décrites.
C'est une sorte de polar psychologique.
Oui, c'est un polar sur le harcèlement moral dans une entreprise japonaise.
Oui, plus que. Enfin, le harcèlement moral dans l'entreprise, en fait. Ça peut ressembler un peu.
Mais oui, parce que c'est vrai que de réduire ça au Japon serait tout à fait injuste.
Je crois que vous allez lire le début. Voilà. C'est vous qui l'avez choisi, hein, pas moi.
Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omochi, qui était le supérieur de Monsieur Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Et moi, je n'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, qui était aux ordres de Monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. Le 8 janvier 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble Yumimoto. La fenêtre, au bout du hall, m'aspira comme l'eût fait le hublot brisé d'un avion. Loin, très loin, il y avait la ville. Si loin que je doutais d'y avoir jamais mis les pieds.
Ça commence bien. Non, en fait, c'est comme une sorte de polar psychologique. Il n'y a pas seulement, en effet, comme vous disiez, le monde de l'entreprise en général, mais il y a une particularité quand même de la manière des Japonais d'aborder le travail et d'aborder les rapports hiérarchiques, par exemple.
Oui, c'est vraiment la hiérarchie pour la hiérarchie. Le respect de la hiérarchie compte infiniment plus dans l'entreprise japonaise que la poursuite de l'efficacité ou du profit. Les Japonais sont si peu obsédés par le profit qu'on peut vraiment considérer l'entreprise japonaise comme une tentative de structure de la société, de corsetage de la société, avec parfois accidentellement du profit.
Mais il y a quand même un personnage important qui apparaît dès le début, c'est l'argent. L'argent, chez Yumimoto, dites-vous, dépassait l'entendement humain. À partir d'une certaine accumulation de zéros, les montants quittaient le domaine des nombres pour entrer dans celui de l'art abstrait.
C'était encore l'époque de la bubble économie, donc la crise n'avait pas commencé au Japon. C'est vrai que les sommes d'argent manipulées étaient énormes, mais dans la même situation, des Chinois auraient manipulé des sommes d'argent infiniment plus énormes. Vraiment, l'argent n'était pas une obsession.
En fait, c'est un roman de critique sociale assez terrible sur le monde de l'entreprise.
Oui, on aurait bien tort de limiter ça à la sphère japonaise, parce que parmi les choses que je ne dis pas, cette entreprise-là, avait, je veux dire l'entreprise japonaise de ces années-là et jusqu'il y a très récemment, était quand même exemplaire en ceci que jamais on ne licenciait. Les plans sociaux, tout ça, c'est très récent au Japon. Jusqu'il y a peu, on considérait qu'on avait le droit d'aller très loin avec les employés, mais qu'on n'avait pas le droit de les licencier. C'était considéré comme beaucoup trop inhumain. Donc vous voyez que même l'entreprise japonaise a des côtés modèles.
Oui, enfin, c'est inhumain de licencier des gens, mais ça peut être inhumain aussi de les garder par moment. Par exemple, alors, oui. Il y a le reproche qu'on fait à l'héroïne, donc à vous, d'être individualiste.
Oui, mais c'est vrai que les Japonais, enfin, ne sont vraiment pas individualistes. On a beaucoup dit ça des Chinois, mais c'est, pour les Chinois, ce n'est pas exact. Les Japonais vraiment ne le sont pas. Donc, leur système s'explique comme ça. Et c'est vrai que le mot d'individualiste est vu comme une insulte.
C'est un mot, oui. C'est un défaut.
C'est un défaut, mais peut-être en effet en essaim.
Vous croyez ?
Écoutez, je ne sais pas. De toute façon, j'ai bien peur de l'être finalement. C'est aussi à cela que j'ai pu identifier que je n'étais pas japonaise, c'est que malgré tout, je suis individualiste.
Et il y a aussi tout un réseau de dénonciations dans cette entreprise.
Oui. J'ai été très étonnée de voir que le code d'honneur japonais admettait la délation.
En fait, c'est tout à fait ce que vous avez dit au départ, c'est tout à fait emblématique du harcèlement moral. C'est-à-dire qu'on essaie de pousser quelqu'un à craquer, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on va le pousser à craquer. Alors, il y a cette histoire que j'aimerais que vous racontiez, parce que moi, comme vous, je croyais que GmbH, c'était une entreprise chimique allemande. Or...
Oui, donc, j'avais cru être engagée comme interprète, traductrice dans cette entreprise. Très vite, il s'est avéré qu'il n'en était rien et qu'on n'avait aucune idée de où on allait bien pouvoir me mettre dans cette entreprise. Bref, finalement, ne sachant où me mettre, les Japonais me placent à la comptabilité. Grave erreur. C'est là qu'avec la meilleure volonté du monde, j'ai injecté des erreurs monstrueuses dans les livres de comptes qui sont peut-être l'explication de la crise japonaise actuelle. Et entre autres, ce que je devais faire, je devais remplir des facturiers. Alors moi, je pensais que c'était facile, qu'il suffisait de recopier. Mais déjà que recopier un nombre est pour moi quelque chose de très difficile. J'oublie toujours des zéros en chemin ou alors j'en ajoute. En plus, même les noms des entreprises posaient problème, puisque par exemple, j'avais cru identifier la grande entreprise allemande qui décidément possédait beaucoup de parts de marché, puisque c'était la GmbH, souvent précédée de noms insignifiants que j'avais décidé de balancer.
Pas insignifiant pour vous.
Oui, j'avais décidé que je balancerais tout ce qui viendrait avant GmbH, parce que ça devait être d'obscures filiales de la GmbH. Et donc, toutes les factures allemandes étaient attribuées à la GmbH. Jusque 3 mois plus tard, tout à coup, les vérificateurs de la comptabilité se sont aperçus qu'il y avait des choses qui clochaient. Et c'est là que j'ai appris que GmbH signifiait quoi
Société anonyme.
Voilà, société anonyme.
Et vous demandez pourquoi on a inventé un truc aussi bête, alors que c'est vraiment très simple.
Mais oui.
Et donc là, on vous a sanctionné, et vous avez fini.
Oui, ça a été vu comme un acte de sabotage. Personne n'a voulu croire que ça ne s'expliquait que par mon ignorance et ma bêtise. Tout le monde a dit c'est une saboteuse, et pour la punir de son acte de sabotage, elle sera dame pipi. Et c'est ainsi que j'ai été dame pipi pendant 7 mois de ma vie.
Et alors, il y avait une idée que l'hygiène sanitaire et l'hygiène mentale, c'était très lié.
Oui. Oui, il en est resté quelque chose. Voyez.
Mais au bout d'un moment, les hommes se sont mis à boycotter vos toilettes.
Mais oui, mais je pense qu'ils étaient. Je devais officier aussi bien aux toilettes pour hommes qu'aux toilettes pour dames. Alors aux toilettes pour dames, ce n'était pas problématique, mais aux toilettes pour hommes, ben, je peux comprendre que ma présence était vue comme problématique. Pourtant, j'avais beau baisser les yeux, me conduire comme une vraie japonaise, souvent quand ils me voyaient, ils sortaient. Donc, vous imaginez tous les problèmes que j'ai posés dans cette entreprise. Mais c'était aussi quelle drôle d'idée de me mettre d'abord à la comptabilité et ensuite aux toilettes, quoi.
Alors vous dites quelque chose de très dur, mais au fond de très grave sur les lieux autoritaires comme ça. Donc à un moment, vous avez eu une sorte de nuit de folie, et vous dites, je rentrais dans le siècle, il peut paraître étrange qu'après ma nuit de folie, les choses aient repris comme si rien de grave n'était arrivé. Certes, personne ne m'avait vu parcourir les bureaux toutes nues, en marchant sur les mains, ni rouler un patin à un honnête ordinateur. À l'époque, vous fréquentiez les ordinateurs.
Oui, mais de façon différente, comme vous avez
Mais on
pu
m'avait
voir.
Quand même retrouvée endormie sous le contenu de la poubelle. Dans d'autres pays, on m'eût peut-être mise à la porte pour ce genre de comportement. Et c'est là que vous dites quelque chose de grave, je crois. Singulièrement, il y a une logique à cela. Les systèmes les plus autoritaires suscitent dans les nations où ils sont d'application les cas les plus hallucinants de déviance, et par ce fait même, une relative tolérance à l'égard des bizarreries humaines les plus sidérantes.
Le Japon multiplie ces exemples. Il y a le cas célèbre du japonais anthropophage qui avait mangé sa petite amie hollandaise en racontant par le menu comment il l'avait découpé, comment il avait cuisiné chaque morceau. Quand il a été capturé par la police, il est passé en jugement. Il s'est expliqué de son acte devant les autorités japonaises. Il a reçu une peine minime. Et quand il a eu purgé sa peine, il a été engagé comme chronique gastronomique par un...
Oh non.
Donc, je n'étais pas le plus grand cas de déviance du système japonais.
Mais vous avez perçu le Japon, quand vous travailliez dans cette entreprise, comme quand même un lieu où l'autorité stricte et raide était...
Voilà. Indiscutable. On ne discute pas avec l'autorité. On me voit d'ailleurs souvent dans Stupeur et Tremblement, dans cette situation d'erreur flagrante, de tenter de raisonner l'autorité, de tenter de discuter l'autorité. Et chaque fois que j'ai fait ça, j'ai eu en contrepartie des châtiments sans bornes, parce que c'était la preuve que je n'avais vraiment pas compris, que je remettais en cause la suprême hiérarchie. On ne discute pas l'autorité, c'est comme ça. C'est vrai aussi au cours, on ne discute pas avec le professeur. Si on ne comprend pas quelque chose que le professeur japonais explique, on ne va pas prendre la parole pour autant. Ce serait vu comme remettre en cause l'autorité du professeur.
Et tout votre manière d'essayer de discuter, comme vous disiez, c'était vu comme un signe de l'infériorité du cerveau occidental.
Qui est flagrante, surtout dans mon cas. Et dont je donnais aussi de multiples exemples.
Mais pour autant, il y a cette espèce de bizarrerie, de bizarre hypocrisie qui est que quand vous êtes parti, on ne vous a pas... On ne vous a pas fait plus de reproches que...
Non, quand je suis partie, finalement, je me suis aperçue qu'on m'aimait plutôt bien. On avait l'air de trouver que j'étais plutôt divertissante.
Et on vous aurait gardée si vous n'aviez pas décidé de partir?
Mais on m'aurait certainement gardée, vous imaginez. Je pourrais encore aujourd'hui travailler chez Yumimoto. Je ne sais au juste ce que j'y ferais. Mais ils m'auraient certainement gardée parce que tel est le système.
Parce que vous dites qu'il y a tout un processus pour se déclarer... voulant partir.
Oui, donc donner sa démission 15 fois d'affilée en suivant la hiérarchie. Donc on commence par son supérieur direct, puis le supérieur du supérieur, et ainsi de suite. Et chaque fois, bien sûr, en s'accablant, parce que si on... comment être assez fou pour vouloir quitter ce magnifique tissu social qu'est l'entreprise? Donc pour justifier cet acte, il faut s'accabler. Ça, je faisais très bien.
Vous étiez bonne ?
Oh, j'étais excellente dans cette opération.
Et vous étiez très...
Oh, mais il faut dire que j'avoue que je trouvais ça très marrant. Surtout que je savais... Enfin, je démissionnais du poste, finalement, de dame pipi. Donc, je disais à chaque fois... Je démissionne parce que je suis incompétente, parce que je n'ai pas les capacités intellectuelles de faire ce qu'on me demande de faire. Et c'était savoureux.
Notamment un jour, quand quelqu'un a essayé de vous signifier qu'il n'y avait pas de papier, oui. Et que vous n'arriviez pas à comprendre.
Oui, non, paie pas. J'étais complètement traumatisée, d'autant plus qu'il était en train de me hurler dessus, donc il a fallu le temps que ça traverse mon cerveau et que j'ai compris qu'il disait « no paper ». Donc j'ai couru chercher du papier. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe quand on est dame pipi. Ça m'a beaucoup apporté. Maintenant, quand je vois des dames pipi, je vous assure que je les traite comme des duchesses.
C'était long quand même.
7 mois aux toilettes, c'est long. Je suis sûre que vous avez le temps. Vous avez le temps d'y réfléchir.
C'était un lieu créatif déjà.
Mais tout le monde s'en est aperçu. Hein. Ce sont des lieux d'intense réflexion. Donc
oui.
Peut-être que ma fécondité littéraire s'explique par le temps anormalement long que j'y ai passé.
Là, vous écriviez déjà.
Oui, bon, pas aux toilettes même, quand même, mais à cette période de ma vie, où j'écrivais déjà, oui.
Depuis plusieurs années.
Depuis plusieurs années déjà, oui.
Donc vous aviez déjà fait quelques-uns des livres qui sont dans les cartons?
Non, dans les cartons, oui, mais aucun de ceux qui ont été publiés.
Non, mais dans les cartons, oui.
Dans les cartons.
Les livres abandonnés.
C'est cela.
Mais alors vous dites que, à plusieurs reprises, vous avez dit que vous viviez un peu la manière de créer comme une sorte de grossesse. Alors donc vous abandonnez beaucoup d'enfants.
Non, parce que je ne considère pas ça comme des abandons. Ce sont des enfants menés à terme, donc j'ai accouché de tous. Je ne suis pas sûre que ce serait un acte de bonne mère que de considérer que tous ces enfants sont destinés à la lumière, à la publication. Certains enfants sont faits pour l'ombre, certains enfants, je crois, sont très heureux de ne pas être montrés.
Quand même.
Quoi, vous voulez vraiment voir en moi une mère sadique qui enferme ses enfants dans les placards?
Abandonniste.
Ah bon, non, 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 je les aime tout autant que ceux que je publie.
Alors, ni d'Ève ni d'Adam, qui est votre dernier livre autobiographique jusque-là, c'est le versant enchanté de cette expérience japonaise. Mais c'est un livre délicieux, je trouvais, et aussi un peu mélancolique parfois.
Oui, quand j'ai écrit les dernières pages de ce livre, je sanglotais. C'était d'ailleurs très difficile d'écrire entre ces larmes. Mais c'est vrai que ce garçon était charmant. Il avait absolument toutes les qualités possibles et imaginables. Il n'avait aucun défaut. Je pense que quiconque lit ce livre...
Sauf la fondue quand même.
Oh, c'était rigolo.
Un japonais qui fait de la fondue savoyarde,
c'est tellement drôle. C'est tellement drôle.
Oh,
un homme qui vous fait rire, c'est déjà pas mal. Vous
oui.
savez. Non, tous ceux qui ont lu ce livre se sont tous dit, mais enfin, pourquoi a-t-elle quitté ce charmant garçon?
Ah non, pas moi.
Ah, mais vous seul me comprenez, Josiane. Mais vraiment, je pense que si cette histoire était tellement parfaite, c'est justement parce que je suis partie. Peut-être que si j'étais restée, ce serait devenu beaucoup moins parfait.
Mais je trouve que c'est un livre où à chaque phrase, on a l'impression que vous avez vraiment aimé l'écrire, pris plaisir à l'écrire,
oh oui.
pris plaisir à raconter cette histoire.
Mais oui, mais c'est une merveilleuse histoire. J'ai adoré la vivre, j'ai adoré lui redonner vie par l'écriture. Parce que, vous savez, il y a cette phrase de Virginia Woolf que j'adore, qu'il ne s'est rien passé aussi longtemps qu'on ne l'a pas écrit. Or, j'avais quelques raisons de vouloir que cette histoire me soit arrivée. Donc... j'ai pris une intense jouissance à l'écrire 16 années après les faits.
Mais quand même, la fondue, vous dites que c'était très charmant. C'était très, très charmant. Mais,
oui.
mais je courus chercher du coca au frigo, assurant que ça allait très bien avec la fondue suisse. Bon, déjà,
oui, fondue suisse.
Et remplis mon verre à pied. C'est prêt, annonça-t-il. Nous nous assîmes courageusement face à face et je risquais un bout de pain imputrescible au bout de la fourchette que je trempais dans le mélange. Je le retirai et m'émerveillai du nombre fantastique de fils qui se formèrent aussitôt. Oui, comment il faut prononcer son nom?
Rinri.
Oui, dit Rinri avec fierté, ce procédé a très bien réussi les fils. Les fils qui, comme chacun sait, sont le but véritable de la fondue suisse. Je mis l'objet en bouche et mâchai. Ça n'avait absolument aucun goût. Je compris que les Nippons adoraient manger de la fondue suisse pour le côté ludique de l'affaire et qu'ils en avaient créé une qui éliminait le seul détail fâcheux de ce plat traditionnel, sa saveur. C'est quand même désopilant la fondue, non?
Oui.
Et alors, il y a aussi une déclaration d'amour au français, j'allais dire, ou du français en amour. L'amour est un élan si français que d'aucuns y ont vu une invention nationale. Sans aller jusque-là, je reconnais qu'il y a dans cette langue un génie amoureux. Vous pensez vraiment ?
Oh oui, bon, j'ai essayé cette pratique dans plusieurs langues, et tout compte fait, rien de tel que la langue française. On sent, il y a une tradition. Il y a une éloquence amoureuse française. Et c'est même plus fort que la langue, parce que, bon, par exemple, les Belges, c'est quand même moins bien aussi. Pour la langue.
Vous croyez?
Oui. je sais pas, c'est, ah, la tradition explique beaucoup de choses.
Mais Sœur Inri, elle a fini par avoir une attitude amoureuse française au bout d'un moment.
Mais oui.
Quand il a commencé à bien sentir cette langue. Parce qu'au début, c'était un peu un sabir qu'il parlait. Vous ne saviez pas s'il parlait chinois ou français.
Savais, c'est ça. Mais oui, écoutez, il avait un très bon professeur, puisque j'étais son professeur ô combien particulier. Et c'est vrai qu'après mes leçons, il parlait très bien.
Mais après votre départ, il a beaucoup grossi.
Ah, quand je quitte les gens, c'est terrible.
Ils deviennent tous obèses.
Je ne suis pas allée vérifier dans tous les cas, vous savez.
Mais lui est devenu gros.
Oui, c'est vrai.
Puisque vous l'avez retrouvé quand vous êtes allée...
Oui. Oh, cette scène de retrouvailles est absolument bouleversante. C'est en l'écrivant que je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'est une belle scène de retrouvailles, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Oui. Malgré les kilos.
Mais alors, en même temps, dans ce livre, vous dites il n'est pas banal que j'écrive une histoire où personne n'a envie de massacrer personne.
Oui, mais rassurez-vous, ça m'est passé très vite. Dans ce que j'écris actuellement, tout le monde a envie de massacrer tout le monde.
Donc... Dans Le Feu du Prince, on massacre assez
oui,
peu.
Oui, non,
enfin,
c'est vrai.
Quand même des morts.
C'est un livre assez gentil. Oui. Mais ça me passera, vous savez, ça me passera.
Vous croyez ?
Oui.
Et vous n'avez plus de livres enchantés comme ni d'Ève ni d'Adam ?
Mais momentanément, non. Mais sait-on jamais de quoi on tombera enceinte ? Je pense que mes cycles ne sont jamais finis. J'ai des cycles infernaux, démoniaques, qui seront toujours féconds. Et aussi des cycles tout à fait charmants, qui ne s'arrêteront pas.
Parce que là, c'était le cycle paradisiaque.
Mais oui, mais il y a tout ça en moi, c'est comme ça.
La montagne, le Japon, oui. Les voyages,
oui.
La découverte du pays en amoureux.
Oh mais oui, mais il faut reconnaître que c'est une merveilleuse expérience. Vous dire, avoir 21 ans, débarquer quelque part, découvrir un pays avec un amoureux, c'est surtout un pays aussi beau que le Japon, ça ne peut être que merveilleux.
Voilà, avant qu'on donne la parole, parce que je pense qu'il y a certainement beaucoup de questions à vous poser, je voudrais qu'on finisse justement sur un livre très méchant, qui a été diversement apprécié, que moi je trouve très très fort dans la critique sociale. C'est Acide sulfurique.
Ah, je le cherchais dans votre pile.
Non, il n'est pas dans ma pile. Il n'est pas dans ma pile, mais je voudrais qu'on en parle quand même. Et donc, en fait, là, vous avez poussé la critique sociale à son extrême total. Donc, vous êtes parti de l'idée de la télé-réalité,
oui.
où des gens acceptent, au fond, de se faire humilier pour passer à la télévision.
Oui.
Et vous avez... considérait que l'extrême de ça, c'était le camp de concentration.
Le camp de concentration, donc c'est vrai que je prends le point de vue jusqu'au boutiste de la chose, puisque là, l'émission de télé-réalité met en scène un camp de concentration. Bon, la différence, c'est que les gens ne sont pas volontaires, puisque la télévision procède à de véritables rafles pour mettre des gens dans ces camps, et les gens sont filmés continuellement, ce qui déjà en soi est une souffrance, mais ils ne sont jamais autant filmés que... quand ils souffrent et tous les jours on tue des gens et à un moment les gens de la télévision ont le sentiment que l'audience est en train de baisser et ils comprennent que pour que l'audience ne baisse plus il faut que ce soit les téléspectateurs qui choisissent quels gens vont être exécutés.
Parce que en fait vous dites quelque chose évidemment qui annonce ce livre terrible mais qui fait partie de la télé-réalité quand vous dites la souffrance des autres ne leur suffit plus, il leur fallut le spectacle, parce qu'au fond c'est ça, c'est la mise en spectacle de situations souvent très très tragiques, par exemple toutes les émissions où on va sensément à la recherche de quelqu'un qu'on a perdu depuis des années, etc.
Bien sûr.
C'est terrible.
Mais je trouve hallucinant que certaines télévisions essaient de faire croire qu'il y a un autre but à ces émissions que le sadisme pur et simple. Si au moins il y avait un aveu de sadisme, ça passerait quand même, me semble-t-il, un tout petit peu mieux. Tandis que les trois quarts du temps, ils essaient de faire croire que ces émissions ont des intentions tout à fait bienfaisantes, que telles que d'apprendre aux gens à s'habiller, alors que de toute évidence, ils ne cherchent qu'à les humilier, à montrer comme ils sont laids. Ou aussi à faire des retrouvailles complètement foireuses entre des gens qui ne sont pas appelés à s'aimer. Enfin, c'est quand même très singulier qu'en démocratie, il y ait des volontaires pour ce genre d'expérience. Alors, ça m'a intriguée au point que j'y consacre ce livre, qui n'est pas si jusqu'au boutiste que ça, puisque l'expérience de 1000 grammes a quand même prouvé que ce qui permet à n'importe qui d'aller jusqu'au bout de la barbarie, c'est d'en avoir accepté le premier échelon. Il me semble que le premier échelon, nous l'avons tous franchi depuis longtemps. Donc je ne vois pas ce que ce livre a de si aberrant.
Et pourquoi il a choqué, à votre avis ?
Je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais en tout cas, il a choqué, mais il a été reçu. Donc,
Et vous êtes parti, vous en avez regardé des émissions de télé-réalité, vous êtes parti d'un écœurement de cette.
Ce n'était même pas nécessaire de les regarder. Je ne sais pas si ce phénomène s'est calmé, peut-être un petit peu, je l'espère. Mais au début des années 2000, je constatais que partout, les gens ne parlaient que de ça. Je savais tout ce qui s'était passé dans le Loft ou dans toutes les autres émissions, rien qu'en écoutant les conversations des gens. Donc ce n'était même pas nécessaire de les regarder.
Mais justement, vous disiez dans le livre, il y a une toute petite différence par rapport à la télé-réalité habituelle, c'est que ce qui est fascinant dans la télé-réalité, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens sont volontaires pour aller faire ça.
Comment ne pas s'interroger sur la notion de volontaire quand on voit ce que ces gens consentent à faire ? Et là, pour le coup, il y a vraiment de quoi s'interroger sur ce que veut dire la liberté humaine.
Et vous pensez que c'est la fameuse phrase de Andy Warhol, être célèbre pendant un quart d'heure ?
Oui, mais autant cette phrase peut être vue comme sympathique et anecdotique, autant ses dérives modernes sont effrayantes.
Et vous avez eu des réactions de lecteurs choqués ou aucune ?
Oui, bien sûr, mais je trouve assez quand même symptomatique que les gens qui ont protesté le plus fort et avec le plus d'indignation contre ce livre étaient précisément des gens qui, à quelques degrés que ce soit, travailler dans les médias et surtout la télévision.
Donc ça les a choqués, cette espèce de miroir affreux
peut-être, oui.
Que vous leur avez mis en face.
J'imagine.
En tout cas, c'est un livre. La critique sociale est souvent présente dans vos livres, en fait,
oui.
même s'il y a beaucoup d'humour, d'ironie.
Oui.
Mais là, vous l'avez poussé.
Oui, mais c'est un thème très grave parce que c'est un thème qui dépasse de très loin la télévision, encore que la télévision soit déjà quelque chose d'important. C'est le thème du mépris, tout simplement, et de voir que le mépris est à présent organisé par des pans entiers du divertissement. Il y a de quoi en avoir froid dans le dos.
Et l'acceptation de se laisser humilier pour être filmé,
oui,
c'est ça qui est très troublant.
C'est très troublant, en effet. Josiane, jusqu'à présent, on avait réussi à faire rire tout le monde. Et
Là, on a fini dur.
C'est fichu. Hein.
Là, on a fini dur. C'est à cause d'acide sulfurique, mais moi,
oui.
C'est terrible. Bon, enfin, maintenant, les questions vont nous ramener dans des choses plus drôles, j'espère.
J'en suis sûre.
C'est vrai que c'est pas votre livre le plus drôle.
Non,
c'est un livre assez terrible. Même.
C'est un livre qui n'est même pas drôle du tout. Mais je pense que de toute façon, j'aime beaucoup être vue comme quelqu'un de drôle, mais je pense pas du tout que c'est ce que je suis. Je pense que si je fais rire les gens, c'est pas exprès et pas directement. Ce rire est symptomatique d'autre chose. De quoi au juste, je sais pas, mais...
On vous voit pas bien, alors il faut...
Oui.
Il faut... Je vois pas grand chose.
Bonsoir.
Bonsoir.
En fait, j'aimerais savoir comment vous avez parlé d'une fécondité quand vous avez une idée pour écrire un livre, mais comment vos personnages se développent dans l'histoire quand vous sentez que le livre arrive au climax et comment vous arrivez à trouver une fin.
J'ai peur d'être très décevante sur ce genre de questions parce que ça se passe de façon très peu réfléchie, ou du moins très peu réfléchie consciemment, très peu consciemment réfléchie. Ce n'est pas pour rien que j'emploie toujours la métaphore de la grossesse. Il y a un travail qui m'accapare profondément pendant un certain nombre de mois, même quand je n'écris pas, l'essentiel de mon être est encore en train d'écrire sans que je m'en rende compte. C'est devenu une espèce de processus organique qui, bien sûr, réquisitionne mon esprit tout entier, mais sans que je le sache tout à fait. Alors, je ne vais pas dire que je n'exerce aucun contrôle conscient de la situation, mais j'ai le sentiment que la réflexion y apporte très peu. Ma réflexion n'est pas consciente. Je sais que j'arrive au terme, pour la raison la plus simple du monde, c'est que je vois que le bébé est sorti tout entier. C'est vraiment comme dans le cas d'un vrai accouchement. Tiens, il est là tout entier avec sa tête, ses pieds. Je n'ai jamais eu le fameux questionnement qu'ont tant d'écrivains quant à la fin du livre, comment savoir si son livre est fini. Je n'ai jamais eu d'hésitation là-dessus. Je vois que mon livre est fini. Il est sorti de moi tout entier.
Mais plusieurs écrivains avec lesquels j'en ai parlé et qui n'emploient pas pour autant cette métaphore de la grossesse et qui en plus sont souvent des hommes, disent quand même comme vous, un moment, on sait que c'est là, c'est fini, il faut s'arrêter, on le sait.
On le sait avec, et parfois on ne le savait même pas la phrase d'avant et tout à coup on voit que, mais oui, ça alors c'est fini.
C'est étrange.
C'est très étrange.
Et le titre, il vous vient avant ou après ?
Une seule fois, je suis tombée enceinte du livre par le titre. C'était Hygiène de l'assassin. Boum, Hygiène de l'assassin, m'entre comme ça dans la tête. Débrouille-toi, écris un livre qui portera ce titre. Toutes les autres fois, le titre m'est arrivé vers la fin. Donc on retrouve un schéma d'une grossesse plus normale. Le prénom du bébé arrive quand le terme approche. Bonsoir.
Bonsoir. Ah oui.
C'est où ?
Merci d'être là. En fait, je voudrais savoir, j'ai lu pratiquement tous vos livres, enfin, sauf trois, je crois, et je voudrais savoir quel est le livre dont vous êtes la plus fière, en fait, et pourquoi ?
Très sincèrement, il n'existe pas de livre dont je sois le plus ou le moins fière. Je pense tout simplement en ça être une bonne mère. Je suis capable de voir que j'ai des livres plus beaux, plus charmants, plus intelligents que d'autres. Et cependant, je ne suis pas capable pour autant de les préférer. De même, je crois qu'une bonne mère ne préfère pas forcément ceux de ses enfants qui sont plus beaux et plus intelligents. J'ai des rapports très forts avec tous mes livres, y compris ceux que je ne publie pas. Des rapports très forts et toujours très évolutifs. Je n'ai jamais de rapport stable vis-à-vis d'un de mes livres. De toute façon, il n'existe aucun de mes livres qui ne soit pas passé vis-à-vis de moi par une phase de détestation, voire même de haine. Il y a toujours un moment où je le hais. C'est terrible. Mais en même temps, je sais que ça n'aura qu'un temps.
Est-ce que vous lisez vos livres à haute voix ?
Non, quelle horreur, mon Dieu. J'ai fait ça pour vous complaire, Josiane, parce que je suis, vis-à-vis de vous, un être soumis. Mais hors de ça, jamais.
Mais la phrase, vous l'entendez quand même quand vous
l'écrivez ? Oui, je l'entends, mais je l'entends dans cette espèce de silence intérieur. Si je la lis, j'ai horreur de ma voix. Et si je devais entendre mes phrases avec ma voix, je pense que ça me bloquerait complètement.
Mais vous les entendez ?
Mais je les entends intérieurement avec une autre voix qui est beaucoup plus la mienne.
Est-ce que vous raturez beaucoup ?
Dans ma tête, je rature énormément, oui, mais pas sur le papier.
Donc vous attendez que la phrase soit musicale dans votre tête ?
Voilà.
Bonjour Amélie, je suis ici. Amélie ?
Où ?
Dans le coin.
Oh mon Dieu ! Oui.
Je suis enseignante et je suis en ce moment en train de faire étudier Hygiène de l'assassin à mes élèves. Et j'ai un problème didactique en ce qui concerne la métaphore, puisque vous faites dire à votre personnage, dont vous avez aussi dit qu'il était vous-même, que la métaphore était une horreur parce que c'était la mauvaise foi.
Oui.
Or, vous venez à l'instant de parler deux fois de métaphore à propos de l'écriture. Et par ailleurs, récemment, vous avez accordé une interview sur le fait du prince, et un journaliste vous pose la question suivante, mais enfin, vous ne parlez jamais de sexualité, vous ne montrez jamais la sexualité directement dans vos livres, et vous lui répondez, si vous regardez, avec votre humour caractéristique, vous lui dites, si vous regardez bien le champagne et toute cette mousse qui sort, vous comprendrez peut-être qu'il y a ici une sorte de métaphore.
Heureusement, je ne comprends rien à ce que vous dites, mais... Mais oui, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment le comble de la mauvaise foi. Je dis que la métaphore, c'est la mauvaise foi, et puis je pousse la mauvaise foi jusqu'à utiliser des métaphores moi-même.
Est-ce que c'était ironique ?
Non, ce n'est pas ironique. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est quand même une réaction. Dans Hygiène de l'assassin, j'ai une réaction contre l'abus de la métaphore. J'ai fait des études dans lesquelles certains professeurs de lettres abusaient de la métaphore. Je ne parle pas seulement dans leur expression, mais surtout dans leurs explications. Bien sûr que la métaphore est essentielle à la littérature et qu'il n'y a pas de littérature sans métaphore, ça va de soi. Mais d'autre part, ne recourir que à la métaphore dans l'explication de texte, c'est insoutenable. Et c'est la mort du sens. Donc je réagissais contre cet excès. Mais bien évidemment, Prétexta, dans toutes ses façons de vivre, est jusqu'au boutiste. Et il ne faut pas aller aussi loin que lui. Regardez, par exemple, comment il se nourrit. Il est le même quand il parle.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Attendez d'avoir le micro.
J'ai déjà identifié la dame, c'est formidable.
Il y a un problème si on n'a pas de micro, mais il y a monsieur d'abord.
Ah, madame, excusez-moi un instant, madame.
Bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Oui. Alors, je ne sais pas si ma question sera très bien séante, mais j'aimerais savoir quelque chose, je me la pose depuis longtemps. Et donc, avec plusieurs lecteurs, on a trouvé que depuis, sur votre dernier livre surtout, vous avez beaucoup fluidifié votre écriture et votre style, enlevant certains mots qui étaient plus compliqués. Par exemple, dans Biographie de la fin, vous commenciez dans les premières pages par une explication sur les îles Vanuatu, et vous employiez une expression sur l'île de la désolation, vous disiez qu'elle avait ses turiféraires. Et nous en avons conclu dans les derniers livres que vous n'utilisiez plus de mots ou d'un lexique aussi compliqué. On se demandait si c'était une envie de fluidification de votre écriture pour un public plus large ou...
Alors ça, c'est vraiment la dernière des choses qui me viendrait à l'esprit. Franchement, écrire dans le but d'avoir un public plus large, c'est vraiment pas me connaître. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai. Si c'est vrai, c'est peut-être tout simplement une coïncidence, parce que je n'ai jamais eu de telles intentions. En tout cas, je n'ai rien observé. Si vous voulez, je vais m'atteler, je vais mettre, je ne sais pas moi, le mot... je vais mettre des pataquès un petit peu dans les livres prochains, mais je... Bon, il y a beaucoup de façons d'entendre ce que vous dites. Si vous dites que je vais vers une fluidification, on peut très bien l'entendre. J'espère bien, mon Dieu, que écrivant-on, j'espère bien que ça aboutit à une certaine évolution. Ce serait quand même dommage de tant écrire sans évoluer du tout. Mais je ne sais pas vers quoi je tends.
Oui. C'était pas forcément négatif comme point, c'était juste une remarque.
Je me permets de trouver extrêmement négatif le sous-entendu de cibler un certain public. Ça, c'est un cynisme et surtout d'une stupidité. Parce que l'écrivain qui cible quelque chose, la seule chose dont il peut être sûr, c'est qu'il va rater sa cible. Heureusement, d'ailleurs.
Mais je crois qu'il n'y a aucun écrivain qui pense à ce qu'on appelle le public. Il n'y a que les faiseurs de livres qui pensent
absolument,
au public.
Absolument. Mais bon, après ça, quand on explique à certains étudiants en marketing, mais non, je vous assure, il n'y a pas de cible, la cible n'existe
pas. Ça ne
plaît pas. Alors on voit dans l'étudiant en marketing écrit dans son mémoire, Amélie Nothomb pousse le marketing jusqu'à nier. Le marketing, c'est du méta-marketing. Pardon, il y avait une dame avec un chapeau noir qui voulait me poser...
Non, non, parce qu'il y a un problème d'enregistrement.
Je suis désolée, madame, on finira par arriver jusqu'à vous.
Il y a un micro là-bas qui devrait...
Bonsoir.
Bonsoir.
oui, je voulais vous poser une question concernant...
C'est là.
Ah oui, oui.
Concernant les deux livres que je trouve être un peu pendants l'un par rapport à l'autre, c'est « Stupeur et tremblement » et « Acide sulfurique ». Parce que dans les deux, il y a un harcèlement. Donc, dans Stupeur, c'est un harcèlement moral d'une supérieure qui est très belle sur la personne qui lui est, qui est sous ses ordres, qui se trouve être vous, ce que vous avez vécu. Et dans Acide sulfurique, la victime de la capot est très belle. Et elle subit donc le harcèlement physique et les tortures de cette femme qui n'est pas belle. Donc je voulais savoir si, comme dans Stupeur et tremblement, vous relatez un épisode que vous avez vécu, vous avez aussi vécu un harcèlement de ce style dans votre vie. Et si oui, comment ça s'est passé ?
Dieu merci, je pense vraiment n'avoir rien vécu de comparable à ce que subit cette pauvre panonique dans Acide sulfurique. Non, franchement, je ne l'ai pas vécu. J'ajouterais que je ne lui ressemble à aucun point de vue. Mais je sais que ça se passe. Je sais que ce sont des choses qui se produisent. Et on n'est pas là, un écrivain n'est pas là que pour parler de ce qu'il a subi. L'écrivain est là pour parler de la réalité. Et je sais que de telles choses se produisent, donc ça peut me suffire pour en parler.
Amélie, est-ce que vous pourriez dire un mot du violoncelle à la fin d'Acide sulfurique ?
Oui, donc Acide sulfurique est ce livre profondément marrant dont on a parlé avec Josiane tout à l'heure. Et il fallait quand même que ça se termine de façon humaine. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner comme fin, sinon optimiste, au moins humaine à ce livre ? Et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il n'y avait rien de plus humain au monde qu'un violoncelle. D'abord, c'est une création de l'homme, sans aucun doute. Et puis, l'homme, enfin, ce qui me touche le plus chez la créature humaine en général, c'est sa voix. Je trouve que l'homme n'est jamais aussi humain que quand on entend sa voix. Or, de tous les instruments, celui qui s'approche le plus de la voix humaine, c'est le violoncelle. Donc, j'ai voulu que ce livre se termine par le violoncelle parce que le violoncelle, c'est vraiment la voix humaine et que une voix humaine, c'est ce qui fait le plus de bien.
Oui, bonsoir. Comme tout le monde ici, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là.
Merci.
Et la question que je voudrais vous poser, en fait, c'est par rapport à l'écriture. Pour quelqu'un qui se trouverait commencer à écrire, quels seraient votre ou vos conseils ?
Oula ! Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais je pense que le premier conseil qu'il faut donner à toute personne qui écrit, ou même à toute personne qui n'écrit pas, c'est de lire « Lettre à un jeune poète » de Rilke. Donc voilà, j'en resterai là.
Et c'est de lire déjà.
Déjà, c'est de lire. Mais tant qu'à lire, pourquoi ne pas lire « Lettre à un jeune poète » de Rilke ? Je ne sais pas pourquoi la dame au chapeau noir n'est pas interrogée.
Oui, pourquoi on ne lui donne pas son micro ?
Mais oui.
C'est, elle va la voir, elle va la voir.
Merci beaucoup. Alors, je disais que c'était un bonheur de vous lire.
Merci.
Et un bonheur de vous entendre aussi. J'ai une question à propos de l'accueil réservé au Japon par Stupeur et Tremblement.
Écoutez, déjà, c'est extraordinaire. Le livre a été reçu.
Oui.
C'est déjà formidable et ça n'allait pas du tout de soi.
Oui.
Si j'avais consacré un tel livre à la Chine n'aurait pas reçu ce livre. Ça prouve vraiment une très belle ouverture d'esprit de la part des Japonais. Les Japonais s'intéressent à ce qu'on pense d'eux. Ils s'y intéressent au point d'acheter les droits du livre et de le traduire. C'est formidable. Je considère que mon but est atteint. Par ailleurs, il ne fallait pas rêver. Évidemment, ce livre n'a pas été aimé des Japonais. Mais le but n'était pas non plus qu'ils l'aiment. Encore qu'il se soit quand même trouvé quelques petits employés japonais pour l'aimer. C'est un livre qui a provoqué un débat houleux au Japon et qui a aussi donné lieu à cette conséquence, c'est que depuis lors, je refuse toutes les interviews japonaises.
Alors, à ce propos, Amélie Nothon, je vous interromps parce que ça entre tout à fait dans ce cadre de ce que vous venez de commencer à dire. Haruki Murakami, qui est un auteur prolixe, prolifique, plein de charme, etc. Avez-vous eu un dialogue avec lui ?
Oh, malheureusement, non. Vous savez, Haruki Murakami est une immense star de la littérature mondiale. Je pense qu'il est tout à fait impossible pour une humble Belge.
Oh, non.
Mais je ne désespère pas un jour d'y parvenir.
Oh, c'est extraordinaire, parce que vous êtes fait pour avoir un dialogue, mais vous seriez...
Mon Dieu.
Ça durerait des heures et des heures.
Vous ne savez pas déjà le nombre d'années que j'ai mis pour avoir un entretien avec Josiane Savigno.
Oh.
Alors, vous savez... Haruki Murakami, ce sera pour une autre fois, mais je serais très heureuse.
Et Kenzaburo Oe, vous l'avez rencontré ?
Ah, j'ai rencontré plusieurs fois Kenzaburo Oe, qui est un homme charmant, mais je n'ai jamais eu véritablement d'entretien littéraire avec lui, que chaque fois que je l'ai vu, on parlait de nourriture.
Pas de fondue.
Non, mais non, il mange très bien.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour, je désirais savoir en fait si pour vos grossesses de livres autobiographiques, c'était différent de vos grossesses de livres fictionnels, car moi-même j'ai écrit des nouvelles fantastiques il y a assez longtemps finalement, mais j'ai toujours eu du mal. Enfin, la fiction, ça allait, mais l'autobiographique, j'avais toujours du mal, car c'est plus délicat, c'est quand même notre vie. Donc, je voulais savoir s'il y avait une différence.
Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je pense qu'il m'a fallu plus de temps pour en arriver à écrire des choses autobiographiques que pour écrire de la fiction. Parce que, dans le cas de la fiction, il n'y a pas le problème de la frontière. On peut vraiment tout dire. Dans le cas du livre autobiographique... Je pense qu'il y a un problème de frontière. Ce n'est pas le cas de toutes les personnes qui écrivent d'autobiographies. Il en existe plusieurs qui trouvent qu'il ne faut pas tenir compte de cette frontière. Mais moi, je trouve que si, et vous aussi, apparemment. Donc, c'est vrai que c'est tout un art proprement géographique d'apprendre à dessiner la juste frontière.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis japonais. Et je voudrais savoir votre avis à propos de la femme japonaise. Et pensez-vous que la majorité des femmes japonaises sont contre l'antiféminisme de la société japonaise?
Je pense que oui. Vous savez, les Japonais ont... Enfin, je ne peux pas prétendre connaître le Japon mieux que vous, monsieur. Soyons tout à fait clairs. Mais ce qui était aussi extraordinaire au Japon, c'est que tout y est représenté, et tout y est représenté à son comble. Des femmes japonaises qui souffrent des carcans que j'ai décrits dans Stupeur et Tremblement, bien sûr qu'il en existe, et il en existe beaucoup, et encore aujourd'hui il en existe, mais à côté de ça, des japonaises féministes, il en existe aussi, et qui vont très loin dans leur féminisme. Donc toutes ces tendances sont représentées au Japon, et de façon très virulente.
Oui, féminisme, ça n'existe pas encore au Japon, au niveau de pratique, à mon avis, mais...
Peut-être pas dans la vie sociale, mais il existe des courants féministes japonais très forts, comme l'école de Takarazuka, quand même, qui dure depuis longtemps.
Oui, mais la majorité de femmes japonaises, à mon avis, elles ne sont pas contre l'antiféminisme de la société japonaise, à mon avis. Elles disent, mais elles ne font pas au niveau de pratique. Elles sont plutôt obéissantes à l'antiféminisme de la société japonaise, à mon avis. Parce que moi aussi, j'ai travaillé dans la société japonaise, mais... Mais les hommes japonais, normalement, ils sont très indulgents avec les femmes. Ils sont très sévères avec les hommes, mais ils ne sont pas sévères avec les femmes. Ils considèrent que les femmes ne sont pas capables de travailler bien, mais c'est normal. Mais l'homme doit travailler bien par rapport à la femme japonaise. C'est l'idée de l'homme japonais. Mais les femmes japonaises ne sont pas contre cette idée de l'homme japonais, à mon avis, il me semble. Donc, au niveau du concept, elles insistent sur le féminisme, les femmes japonaises, mais au niveau de la pratique, elles ne font pas. Mais en effet, je pense que c'est la réalité de la société japonaise, il me semble. Mais à mon avis, c'est mon avis personnel, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon idée, je ne sais pas. Mais c'est...
Non, mais je pense que ce que vous dites est très vrai, mais c'est très difficile aussi de faire la synthèse entre tout. Ce que vous dites est vrai, mais je pense que ce que j'ai dit, voilà, il n'y a pas de synthèse entre tous ces courants au Japon. Mais c'est vrai aussi que beaucoup de femmes au Japon sont contentes que ce système existe parce que ça leur permet de quitter l'entreprise et de dire, regardez, l'entreprise n'est pas faite pour moi, donc je vais quitter l'entreprise. Et je comprends très bien qu'on puisse avoir pour ambition de quitter l'entreprise japonaise. C'est une ambition tout à fait respectable.
Oui, oui. Les femmes françaises elles sont plus indépendantes que les femmes japonaises. Évidemment, mais les femmes japonaises, elles ne peuvent pas être tellement indépendantes des hommes. C'est la femme japonaise, à mon avis. Moi, je connais les deux sociétés, mais j'ai vécu pendant 25 ans, genre, ça fait 10 ans que je suis en France, mais je connais la femme japonaise et la femme française. Mais c'est la femme française qui est plutôt indépendante aux hommes.
C'est possible, oui.
Merci beaucoup.
Tout en haut.
Ah, il y a une jeune fille tout en haut.
Tout en haut.
Je vous admire de voir, parce que moi j'ai beaucoup de mal à voir qui parle. Et,
moi aussi, mais là, elle est habillée en blanc.
C'est un petit peu la situation du jugement dernier, vous savez.
Oui. Vous voyez là.
Bonsoir, oui. Abélie, je voulais vous poser une question à propos de vos livres autobiographiques en général. Souvent, on parle du pacte autobiographique entre l'auteur et le lecteur. Et l'auteur qui dit en quelque sorte au lecteur, voilà, je vais te faire lire ma vie, et en échange, je vais aussi te montrer des choses que j'ai compris et qui permettent de perfectionner ton entendement sur certaines choses. Donc, c'est pas seulement le déballement d'un ego. Et je voulais juste savoir quel était le rapport justement entre ce pacte autobiographique et la volonté graphomane d'écrire, qui est à la fois cathartique et extatique. Voilà.
Merci. Je pense que mon pacte autobiographique, d'ailleurs tout à fait instinctif, est très simple. Je ne sais pas s'il est didactique, ça j'en sais rien. Mais mon pacte autobiographique, c'est tout ce que je dis dans mes livres autobiographiques est vrai, mais je ne dis pas tout. Voilà, je ne dis que du vrai, mais je ne dis pas toute la vérité. C'est parce que je veux aussi garder des choses pour moi. Je ne sais pas si ceci répond vraiment à votre question, mais c'est le seul pacte que j'ai jamais pu élucider dans mon écriture autobiographique.
Oui.
Ah oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Il y a un conflit là.
Ah, qu'est-ce que je fais ? J'y vais. Bon, je voulais savoir si dans votre processus de création, vous préférez le thé ou le champagne.
Alors, soyons tout à fait clairs. Tout à l'heure, j'ai laissé entendre que j'écrivais au champagne. J'ai essayé, c'est impossible. Je ne suis pas capable de modération avec le champagne, donc inutile de vous dire que ça donne lieu à une écriture qui ne veut mais strictement rien dire, et même très vite, en la capacité pure et simple de l'acte d'écrire. Voilà, l'écriture, c'est le thé. Le champagne, c'est quand on a fini d'écrire.
Merci.
Bonsoir. Quel écrivain, au pluriel, quels écrivains vous sentez-vous le plus proche, soit écrivain antique d'autrefois, soit contemporain, à part Monterland et Rilke, qui vous touchent, mais est-ce qu'il y a d'autres?
C'est une question terrible que vous me posez là, parce qu'elle laisserait sous-entendre qu'il puisse y avoir une proximité entre moi et les écrivains que j'admire. Ce serait extrêmement dangereux. Par exemple, vous avez parlé de Monterland, c'est vrai que je l'ai énormément fréquenté. Mais sous-entendre une proximité, mais vous imaginez la prétention et la vanité de ma part de prétendre m'approcher d'un si grand écrivain. Donc, entendons-nous par ce qu'on veut dire sur proximité. Je crois qu'on peut peut-être sentir en me lisant que j'ai beaucoup lu certains écrivains. De là à m'apparenter à eux, il y a un pas que je ne franchirai pas. Donc, je parlerai plutôt en termes d'admiration. Et mes admirations sont très, très, très multiples, mais on pourrait y passer la nuit. Mais je vois une autre question qui est posée à l'instant.
Je pense effectivement qu'il y a énormément d'écrivains. D'Ogione ou à un autre que je citerai rien que lui, c'est Éric-Emmanuel Schmitt, et je pense particulièrement à Quand j'étais un objet d'art et l'attentat. Oui, c'est ça.
Oui, Amour, enfin, mais écoutez, il l'a écrit plus tard, mais c'est un ami, et puis nous fréquentons la même maison d'édition. Je ne sais pas si ça suffit à établir un intertexte.
Ma fille et moi, on vous a à égalité dans le Panthéon, en tout cas. Oh, ben, et on voudrait plaisir. L'adresse des deux.
Merci. C'est pour nos péchés, Josiane, ouais. Vous savez, tout ça. Ouais. Ah oui, je vois un doigt là qui s'est
levé. Il faut descendre un peu.
Et le doigt est relié à une main qui est reliée à un être humain.
Voilà, c'est là.
Oui.
En parlant d'être humain, est-ce que vous écririez à la main pour avoir dans l'autre main le chocolat pour pouvoir manger, écrire et manger en même temps? Non, vous pourriez nous parler de votre rapport à l'écriture hors ordinateur, puisque vous aviez l'air d'être extrêmement...
Écrire
contre.
Et manger en même temps, c'est impossible.
C'est ça impossible aussi.
C'est,
aussi.
Déjà, en plus, le chocolat, ça tâche. Puis même, c'est pas possible, parce que l'extase du chocolat est trop forte, donc tout de suite, on oublie d'écrire. En plus, c'est d'autant plus impossible que pour écrire, j'ai besoin d'avoir très faim. Donc, j'entretiens cette faim, bien sûr, en ne mangeant pas aussi longtemps que je n'ai pas fini d'écrire. Oui. Pour moi, oui, mais les autres font ce qu'ils veulent, bien sûr. Mais vous savez, je suis un être tout à fait préhistorique. Hein. Tout ce que je dis le prouve. Donc évidemment, pas d'ordinateur. Si je pouvais écrire mes livres sur les parois d'une grotte, je crois que ça m'irait bien.
Oui, rebonjour, c'est moi à votre droite.
Oui.
Une voix que vous ne reconnaissez pas.
Mais c'est-à-dire que je ne vous vois même pas.
Et pourtant, vous me connaissez un peu.
C'est à qui est cette personne infinie, mystérieuse?
Mais je ne veux pas me dévoiler, vous aimez le mystère, je crois. On a parlé de la métaphore tout à l'heure, et il était question de l'autobiographie aussi. Et vous avez dit qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas écrire, ou que vous faisiez le choix de ne pas écrire. C'est la question, ça peut être la pudeur, dont vous avez parlé dans Hygiène de l'assassin. Moi, ça fait très longtemps que j'essaye d'écrire quelque chose d'irracontable, et ce qui m'empêche de le raconter, c'est la pudeur. Et donc, je le fais à travers des poèmes qui me permettent d'utiliser la métaphore.
Je crois que j'ai reçu un courrier de vous aujourd'hui. Merci pour le cadeau que vous m'offrez. Vous voyez, ça finit par fonctionner.
Et je voulais savoir comment on peut faire pour dépasser la pudeur.
Mais on ne la dépasse pas. C'est ce que je disais tout à l'heure à la jeune fille qui a parlé d'écriture autobiographique. Tout l'art est de trouver la juste frontière. La juste frontière n'est pas du tout un déni de la pudeur, mais un art de parvenir à parler de l'indicible sans nier la pudeur. Ça ne s'acquiert pas tout de suite.
Oui, moi, ça prend du temps. Je vous remercie beaucoup, Amélie.
Oui, je voudrais savoir où est-ce que vous écrivez. Vous écrivez dans le calme d'un bureau ou bien dans les lieux publics, les cafés, les bibliothèques ou...
Alors, j'écris autant que possible chez moi et sans bureau, c'est-à-dire dans le canapé. Donc, sur mes genoux, je n'ai pas de table. J'ai une espèce d'écritoire que je pose sur mes genoux. Mais les circonstances de ma vie ont fait que j'ai dû apprendre à écrire dans toutes les circonstances, à devenir un écrivain tout terrain. Donc j'ai appris à écrire dans les avions, dans les trains. Mais si je peux choisir, je préfère écrire chez moi, dans le canapé.
Bonsoir. Il y a un ouvrage dont on n'a pas parlé, c'est Les Combustibles. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un petit mot et nous dire aussi votre expérience avec l'écriture dramaturgique.
C'est vrai que Les Combustibles est le seul texte que j'ai écrit a priori pour le théâtre, du moins en espérant qu'il était du théâtre. Et heureusement, la suite l'a prouvé puisqu'il a été joué maintes fois. C'est un livre que j'ai écrit pendant le siège de Sarajevo et qui m'a été directement inspiré par lui. J'avais lu dans le journal cette phrase « À Sarajevo, les gens ont aussi froid qu'ils brûlent leurs livres ». Cette phrase m'est restée en travers de la gorge et pour la comprendre, j'ai écrit cette pièce de théâtre mettant en scène trois individus enfermés dans un appartement à Sarajevo. Enfin, ce n'est pas situé et c'est très exportable. Mais à l'époque où je l'écrivais, c'était Sarajevo, l'hiver, et n'ayant plus d'autres combustibles que leurs livres et discutant avec le peu d'humanité qui leur reste pour savoir quel livre ils vont sacrifier. C'est un livre assez terrible aussi.
Vous avez envie d'écrire encore du théâtre ?
Ça m'arrivera peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait jamais de quoi on tombera enceinte, mais pourquoi pas.
Bonjour.
Bonjour.
Ici. Comment vous allez ?
Très bien.
J'avais une question par rapport à Robert des Noms Propres. En fait, à la fin, Plectrude s'intéresse à la chanson grâce à Catherine Ringer, d'Erita Mitsuko, et je voulais savoir en fait quel était votre rapport avec ce groupe et cette chanteuse.
Oh, j'aime énormément l'Erita Mitsuko et on est tous en deuil hein, depuis la mort récente de Fred Chichin. Heureusement, il reste Catherine Ringer, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils font.
Je crois qu'on peut prendre encore une ou deux questions.
Oui, oui. La dernière question.
Alors, la dernière.
Oui, bonsoir.
Dans votre œuvre, les livres ont une grande importance. Il y a les livres qui sauvent, comme dans Les Combustibles. Il y a les livres qui tuent, comme dans Journal d'Hirondelle. Donc apparemment, vous n'avez pas lu de livres qui vous ont tué, mais quels sont ceux qui vous ont sauvé ?
Énormément de livres m'ont sauvé. Surtout, bien sûr, les livres que j'ai écrits pendant que j'ai lus. La confusion est intéressante. Pendant mon adolescence, oui, j'ai écrit l'œuvre de Stendhal, j'ai écrit Monterland.
Et Virginia Woolf ?
Oui, absolument. Mon adolescence interminable et combien solitaire a prouvé qu'on pouvait être sauvé tous les jours par des livres. On ne peut pas vivre dans le néant, surtout pas à l'adolescence. Et dans mon adolescence, j'étais dans le néant. Et j'ai vraiment survécu grâce à Stendhal, grâce à Monterland, grâce à tous ces livres dont nous avons parlé. Ma reconnaissance est infinie envers tous ces immenses auteurs qui m'ont tiré du néant, qui m'ont permis d'affronter le néant. Mais aussi, j'ai envie d'étendre cette reconnaissance envers tous les livres, même les mauvais. On devrait aussi avoir de la reconnaissance pour les mauvais livres qu'on est amené à lire au cours de sa vie, soit qu'on soit forcé à les lire pour l'école ou dans le cadre de prix littéraires curieux. Il y a une jouissance du mauvais livre, il y a un apprentissage. Les livres, mauvais livres nous apprennent beaucoup. Ils nous apprennent ce qu'il ne faut pas écrire. Puis, je ne sais pas, il y a une jouissance à lire de mauvais livres. Donc, tous les livres. Finalement, j'ai été sauvée par absolument tous les livres, y compris les mauvais.
Bon, je crois que, bien qu'on ne soit pas dans une entreprise japonaise, il y a des horaires. Il va falloir s'arrêter. Donc, je voulais vous remercier et remercier Amélie Nothomb, surtout.
Merci Josiane. Merci infiniment. Merci à tout le monde.
Mmh.